Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour à vous. Quelle nuit encore, hein, quelle chaleur. Est-ce que vous avez pu dormir un peu quand même? C'est plus frais ce matin, en tout cas sur l'ouest seulement. On fera bien sûr des points très réguliers avec Valérie Darmon dans un instant et toutes les demi-heures, vous le savez. Et puis ce matin, on a voulu s'intéresser à nos agriculteurs, nos éleveurs, les conséquences de cette sécheresse. On sera avec nos correspondants en Ardèche, dans l'Hérault, en Dordogne. À 7h10, mon invité sera l'hydrologue Emma Aziza. Est-ce qu'il faut repenser notre modèle agricole avec ces sécheresses à répétition? Et puis à 8h moins le quart, ça vous concerne, on verra avec Valérie que font les maires ruraux pour aider leurs éleveurs, leurs agriculteurs. Encore une chose, on va retrouver bien sûr tous vos rendez-vous du dimanche. À 6h50, on sera à Pont-Aven avec Vanessa Zah. Et puis ne ratez pas Mathieu Alterman vers 7h20. On écoutera avec lui plein de petites pépites musicales qui vont nous rappeler des bons souvenirs, j'en suis sûr. Vous savez tout, dimanche 19 juin, c'est la fête des pères. Soyez les bienvenus dans votre matinale week-end. C'est parti! Il est 6h. Bon réveil à tous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et c'est bien sûr les Naïk Meunier qui vous informe. Première édition, bonjour les Naïk.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. La France suffoque, la terre est aride. Thierry, vous le disiez, nous consacrons cette matinale à la sécheresse et à tous ceux qui en pâtissent. Direction l'Ardèche dans un instant.
Élection législative, acte 2. Pourquoi les jeunes ne vont-ils pas voter? Nous verrons comment ils préfèrent s'exprimer.
Et puis on parlera sport, rugby, c'est Montpellier qui rejoint Castres en finale du top 14.
Dans la prochaine demi-heure, le pronostic de Thierry Léger, bien sûr, pour le Quintet à Chantilly aujourd'hui. Mélanie Gomez et Julia Vignali nous parlerons de la fête des pères et Mathieu Noël plaidera pour lui-même. Mais avant cela, bien sûr, la tendance météo avec vous. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Des vigilances rouges bientôt levées, des orages dans le nord-ouest jusque sur Paris, de la pluie entre Vendée et le pays nantais, du soleil partout ailleurs, des sons levés, des températures trop élevées encore sur la façade est. Voilà le programme.
À tout à l'heure dans 7 minutes Valérie pour un point complet. Matinale spéciale donc ce matin sur Europe 1, nous parlons donc de la sécheresse. 87 départements sont concernés.
Chaque semaine, de nouvelles zones et communes sont placées en alerte. À ce jour, déjà 40 départements ont même passé le seuil le plus critique. Nous sommes en Ardèche ce matin où les sols sont particulièrement arides. À Beaumont, où vivent 250 habitants, on cherche des solutions comme cette nappe phréatique artificielle pour éviter les coupures d'eau. Reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Un énorme trou de 600 mètres cubes enterré et tapissé d'une bâche. On met à l'intérieur du sable ou ici de la poutzolane, une roche volcanique filtrante qui va permettre de conserver la potabilité de l'eau comme dans une nappe phréatique naturelle. De quoi tenir tout l'été, explique Pascal Walschmidt, ancien maire de Beaumont, à l'origine du projet.
L'idée, c'est de remplir ça en mai ou juin quand on a trop d'eau. Vous voyez, par exemple, en ce moment, la source qui nous alimente débite 120 mètres cubes par jour et on doit consommer la moitié sur la commune. Donc on a de quoi remplir cette nappe au mois de juin. Et en revanche, au mois d'août, on pourra envoyer 10 ou 20 mètres cubes par jour pendant 10-15 jours. Parce que l'eau stockée dans du sable ou de la pouzzolane, les bactéries ne développent pas et même elles meurent. Dans des civilisations antiques, ils avaient déjà découvert ça. Donc c'est très précieux.
Ce réservoir enterré est une première en France. La technique est en revanche très répandue à Madagascar, qui depuis longtemps souffre de pénurie d'eau, explique Thierry Labrosse, son inventeur.
On en a installé 80 à Madagascar. On en installe pour l'ONU. On en installe pour l'Action contre la faim.
Son inventeur, qui est persuadé que le changement climatique ainsi que son coût réduit, 80 000 euros ici, vont booster le développement de la nappe phréatique artificielle dans les prochaines années. Beaumont, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Allez, on en parlera tout à l'heure donc dans Ça vous concerne avec Valérie Darmon à 8h moins le quart. La France qui étouffe donc depuis quelques jours. Hier, c'était le jour le plus chaud de la canicule du nord au sud du pays. De nombreux records de température ont été battus.
C'est dans le sud-ouest que le mercure a le plus grimpé. 42, 43 degrés, 45 millions de personnes étaient concernées hier par le niveau rouge ou orange de vigilance. 11 départements le restent hein, toujours. 59 sont orange. La vague qui va se déplacer désormais vers l'est, vous en saurez plus avec Valérie Darmon juste après ce journal. Mais hier, à la fraîche ou presque, vous avez quand même pu souffler, profiter un peu de l'extérieur. Mathieu Limongi s'est rendu sur les quais de Seine.
Que demande le peuple ?
Il fait bon, on respire enfin. Petite bouteille de rosé et puis un peu de fraîcheur, ouais.
Température redescente, là ça va être bien, on va se rafraîchir.
On est disposé là, près du point d'eau, avec l'herbe, pour se rafraîchir et manger un peu.
On est bien, on profite. Hein. Il y a beaucoup de glaçons, on a pris 2 sachets de glaçons au moins. On a une glacière avec des jus, du soda, on a une enceinte pour se détendre, pour se rafraîchir. Voilà, santé.
Mes propos recueillis par Mathieu Limongi à Paris, où le vent souffle d'ailleurs assez fort ce matin.
Et puis notez-le, pour savoir si votre département est concerné par les restrictions d'eau, vous pouvez vous rendre sur le site ou l'application europe1.fr, carte mise à jour en temps réel. L'autre grand titre de l'actualité, Lénaïc, c'est le second tour des législatives. Les bureaux de vote ouvrent à 8h en métropole.
Oui, majorité absolue ou pas pour le chef de l'État. Le scrutin déterminera quelle coalition sera en pole position. La semaine dernière, on a assisté à un très fort taux d'abstention et c'était le cas encore en Guadeloupe. 28% seulement de participation et un premier résultat ce matin. La secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, qui a été battue.
Cette abstention qui a surtout concerné les plus jeunes.
Oui, malgré les tentatives des partis pour capter leur intérêt, 75% des 18-24 ans ne sont pas allés voter au premier tour. Alors, est-ce qu'ils vont se déplacer aujourd'hui ou est-ce qu'ils ont trouvé un autre moyen de faire entendre leur voix? Caroline Baudry a fait un tour chez les militants d'Alternative à Paris. Le mouvement accueillait hier ses futurs bénévoles.
J'ai 23 ans aujourd'hui et je ne sais même pas si je pourrai avoir des enfants dans 10 ans.
Mathéo est militant, bénévole ici depuis début mai. Il a bravé la chaleur écrasante pour traîner son frère devant l'éventail de prospectus imprimés par les associations de protection de l'environnement qui continuent de grossir leur rang.
Les élections présidentielles ont été un gros moment de se rendre compte qu'on est une grosse partie de la population aussi qui ne prend pas la mesure des enjeux et la mesure de l'urgence.
Oh bah il essaye de me convaincre, ça tout le temps.
Un bar, des pancartes multicolores au message choc et quelques transats. Alexandre entre ici pour la première fois. Après une expérience politique à Nantes, il a choisi la désobéissance civile.
Je me sens plus à ma place comme ça quoi. Je pense que dans la politique, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, qui doivent jongler avec beaucoup d'acteurs différents. Je trouve plus de liberté dans l'engagement associatif, où on va avoir une action en tête et on va la mener de A à Z.
Sofiane, 24 ans, de l'association Vert Dragon, l'accueille. Ce diplômé de sciences politiques a franchi le pas il y a 7 mois après un déclic.
Aujourd'hui, politiquement, on voit que ce qui ne sont faits, ce sont que des petits pas. Parfois, on peut considérer qu'on va à reculons en fait.
Ces nouveaux militants comptent sensibiliser une centaine de visiteurs durant cet événement.
Élection législative, deuxième tour, c'est toute la journée sur Europe 1. Nous serons dans un bureau de vote à 9h. On vous donnera également les premiers chiffres de participation à la mi-journée. Et puis la soirée électorale débute à 18h ce soir sur Europe 1.
6h06, on va continuer à parler de la jeunesse avec ces étudiants en filière pro, recrutés avant même d'être diplômés.
Passe ton bac d'abord, la formule a pris du plomb dans l'aile au moment où plusieurs secteurs cherchent de la main-d'œuvre. Les étudiants en bac pro sont très sollicités. Solène Leroux, on parle de jeunes déjà formés avec de bonnes expériences professionnelles. Les patrons leur mettent la pression, quitte à leur faire oublier le diplôme.
C'est vraiment dommageable parce qu'il faut que les jeunes aillent jusqu'au bout de leur certification, obtiennent le diplôme.
L'appel d'Olivier Beaufrère, proviseur dans l'Essonne, il observe ce phénomène depuis quelques années qui s'est accentué depuis le premier confinement. Il rappelle que le diplôme n'est pas qu'un bout de papier.
Ils peuvent peut-être, pourquoi pas, postuler pour un BTS, pour des formations complémentaires. Et puis ils ne savent pas ce qu'ils feront même dans quelques années.
Penser long terme, c'est la stratégie d'Elsa. À presque 20 ans, elle termine bientôt un cursus en commerce. Après un stage dans un magasin de chasse et loisirs, le patron a voulu l'embaucher en CDI. Ça a été compliqué de refuser, mais elle n'a pas cédé.
J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité aussi parce que ça s'est vraiment très bien passé. J'ai bien aimé l'entreprise, j'ai bien aimé aussi ce job. Mais bon, après réflexion et après avoir beaucoup parlé à plusieurs personnes, le mieux, c'est quand même d'être diplômé.
Pourtant, des secteurs où la pénurie de main-d'œuvre est forte n'hésitent plus à mettre les jeunes dans l'embarras. L'hôtellerie-restauration et les métiers de service à la personne sont les plus demandeurs.
Les précisions de Solène Leroux pour Europe 1. Et puis j'ajoute que le grand oral du bac général, lui, débute demain. Nos trucs et astuces pour le préparer, ce sera tout à l'heure dans le journal de 7h.
À l'étranger, fait rare depuis le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est déplacé en dehors de Kiev. Le président ukrainien s'est rendu à Mykolaïv, dans le sud du pays.
C'est cette ville portuaire toujours sous contrôle ukrainien, mais qui reste une cible de Moscou parce qu'elle se trouve sur la route vers Odessa. Les forces russes qui continuent de bombarder d'ailleurs l'est du pays. Nous y serons d'ailleurs dans le journal à 7h. 5 civils ont été tués à Donetsk hier. 12 autres ont été blessés.
Les sports à présent, les Naïcs et Montpellier rejoint Castres en finale du top 14.
Oui, troisième finale de son histoire pour le club après un succès 19-10 face à Bordeaux-Bègles. La réaction du demi de mêlée, Benoît Payog chez nos confrères de Canal.
C'est assez fou parce que ce groupe-là, il y a encore l'année dernière, on se battait pour le maintien. Et là, on se retrouve à jouer une finale. Comme quoi, dans le sport, tout peut arriver vite. Quand on y croit, quand on s'entraîne dur, ça a été la force de ce groupe depuis maintenant 2-3 ans. On n'a jamais baissé les bras quand ça a été compliqué. Et aujourd'hui, on est récompensé. Il y a un monument de notre club qui n'a pas pu être sur la feuille de match. On a beaucoup pensé à lui. Fufu, aujourd'hui, c'est cette victoire, elle est pour lui parce qu'il mérite d'y aller en finale, de la jouer et de gagner un titre avant d'arrêter. Donc, pour tout ça, pour tous les joueurs qui sont blessés, pour tous ceux qui étaient là dans les tribunes, on avait à cœur d'amener tout le monde à Paris, nos supporters, nos familles et tout, et c'est super quoi.
Voilà, il reste une étape à franchir. Montpellier-Castres, finale du top 14, ce sera vendredi prochain et ce sera au Stade de France.
C'était le journal de Lénaïque Monnier. À tout à l'heure, Lénaïque. Alors, le temps, Valérie Darmon, on respire enfin, en tout cas à l'ouest. Hein.
Effectivement, sur les régions proches de la Manche ce matin où le temps se dégrade depuis hier soir notamment, les nuages de plus en plus nombreux dans la journée vont donner des orages ce matin et quelques averses assez copieuses sur le Finistère et le golfe du Morbihan faisant chuter les températures. Des Pays de la Loire au bassin parisien et sur le littoral atlantique, la chaleur qui baisse d'un cran aussi avec cet après-midi 27 à 32, rien à voir avec hier, sous un ciel là aussi de plus en plus nuageux, ponctué de quelques ondées éparses qui vont virer aux gros orages cet après-midi de l'Aquitaine jusqu'au bassin parisien. Ils peuvent être forts avec des risques de grêle et surtout de violentes rafales de vent. Ils sont à surveiller eux aussi.
On regarde à l'est maintenant, la canicule persiste là.
Exactement, de l'Occitanie à PACA, Auvergne, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Alsace, le ciel qui éclaire ce matin pour être très très ensoleillé le reste de la journée. Le vent d'Autan qui est assez fort dans son domaine, le vent de sud sensible en vallée du Rhône et on va atteindre 34 à 38 sur la Bourgogne, l'Auvergne, Rhône-Alpes avec des pointes possibles à 39 sur l'Alsace. Il fera jusqu'à 35 de l'Occitanie au Limousin et au centre-Val de Loire. Et à Paris, on se rapproche des 30 degrés aujourd'hui toujours.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure. Alors à suivre, bien fait pour vous, c'est la fête des pères aujourd'hui avec 3 livres pour eux. Et puis Mathieu Noël bien sûr. Mais avant ça, les pronostics pour le quintet du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est un magnifique quintet qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly. Le prix de Diane, réservé à l'élite des pouliches européennes âgées de 3 ans. Et parmi les 18 partantes, André Fabre, tête de liste incontestée des entraîneurs depuis de nombreuses années, attaque en force avec 4 représentantes. Les numéros 6, Zélie, très endurcie et courageuse quatrième des 1000 Guinées à Newmarket, ce qui lui confère ici la première chance de ce groupe 1. 2. Agave, prometteuse deuxième du prix Gréful, étant uniquement devancée par Onesto, qui depuis a fait l'arrivée du Jockey Club. 5. Place du Carrousel, sachant finir ses courses. Et 17. Babala, tardive mais douée, et dont la course de rentrée victorieuse à Longchamp n'est vraiment pas passée inaperçue. Ensuite, je vous recommande les numéros 12, Rosacea, et 10, Daisy Mizzi, inséparables. Elles sont entraînées toutes les deux à Deauville et viennent de terminer à l'arrivée du prix de la Grotte et de la poule d'essai des Pouliches, deux épreuves préparatoires à ce prix de Diane. Enfin, les numéros 4, Nashua, qui nous arrive d'Angleterre, précédé d'une flatteuse réputation, et 16, Nadette, en constant progrès, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 2, 5, 17, 12, 10, 4 et 16.
C'est bien noté, merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h12, Europe 1 parle de vous, de nous, avec les meilleurs moments de l'émission Bien fait pour vous, hein, tous les matins du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine Nathalie Le Breton qui intervient tous les mercredis pour parler littérature jeunesse. Et ce dimanche, c'est la fête des pères. Nathalie nous propose donc 3 livres pour les enfants et leur papa.
Alors Nathalie, on célèbre aussi les pères avec vous ce matin et signe des temps, les livres abondent hein, sur le sujet, mais avec une approche 2022, les pères sont des hommes comme les autres avec des qualités mais aussi des défauts.
Mais ah. Oui, et qu'est-ce que c'est bon de sortir de ces discours un peu mièvres, oh là là, papa d'amour, tellement formidable, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. On se dit les choses, on se regarde, on trouve de la complicité, on rigole ensemble et personne n'est dupe. Et la fête des pères, c'est l'occasion de faire passer des messages. Alors je commence avec un premier livre de Marine Paris et Pauline Duhamel, « Comment dédragoniser un papa dragon en 10 leçons ». C'est sorti chez Glénat. C'est juste excellent. Alors, évidemment, vous vous doutez que ce petit garçon-là est sans doute un spécialiste de la bêtise, comme tous mes enfants. Et évidemment, son papa devient un dragon. Et il y a tout, il y a le poil hein, qui se hérisse. Et le voilà, il est vert de rage. Et ce petit gredin de garçon nous propose et se propose d'amadouer son père. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'amour parental. Quand on s'est fait disputer, comment on peut faire pour se faire pardonner? Alors, plusieurs leçons, une dizaine. Il y a une mauvaise foi absolue dans le livre, du genre « Non mais t'as qu'à dire à ton papa que t'es indiscret, c'est vrai, c'est pas grave si t'as tout fait sauter dans la cuisine, que c'est tout sale, etc. Finalement tu n'as fait qu'oublier de laver la vaisselle, c'est pas grave du tout. » Et alors donc il est d'une mauvaise foi et surtout ça le sert à justifier ses bêtises. Alors bien sûr, il propose de blaguer un petit peu, de ramener un peu le sourire, mais le père continue d'être dur. Ou alors sinon tu prends soin de lui, Maud, les pieds, machin, tu lui fais un petit massage, etc. Mais il n'y a rien à faire parce que tout ça est prétexte à en faire davantage, davantage. Et il y a quand même une leçon qui semble être efficace. C'est la leçon numéro 11, celle dont on parle. C'est-à-dire faire un gros câlin à son papa et aller se réfugier dans ses ailes de dragon. Il paraît que ça, ça marche. En tout cas, ça rassure les enfants sur le fait que bah, les papas, ils ont des hauts et des bas. Et les enfants aussi.
À l'opposé, Nathalie, on a aussi quand même des petites filles très, voire trop fans de leur papa qu'elles vont devoir faire descendre de leur piédestal.
Oh oui, et ça, ça nous énerve un petit peu. Hein, nous, les mères, ce regard amoureux des petites filles sur leur papa. Et
c'est vrai, j'en ai une à la maison. Ouais.
Ça gonfle un peu. Ah, soyons directs.
Moi, j'ai des grosses fesses et papa, il est parfait.
Voilà, mais c'est certainement un bon papa et je pense qu'il va savoir mettre la distance. Et c'est ce que dit ce livre, Mon père hélicoptère, de Joe Ostland et Héloïse Solt. Ça vient de sortir chez Castor, père Castor. Et cette petite fille, évidemment, elle a un papa hélicoptère. Pourquoi ? Parce qu'il accourt en urgence pour tout, pour la sauver d'une vague qui est un petit peu forte, pour la rattraper sur le toboggan quand elle arrive enfin en bas et qu'elle risque de tomber. Donc, il est formidable, rassurant, disponible, toujours présent. Mon père, ce héros. Sauf que... Ah. À un moment donné, dans l'image, ils sont au parc. Et là, de façon très lointaine, on aperçoit un papa sympa avec un bébé dans les bras. Toboggan, la petite fille veut monter sur le toboggan. Des grands l'en empêchent. Et là, elle se met à hurler. Papa, papa. Eh bien, papa, il est un peu occupé avec ce bébé. Et donc, elle va se mettre à hurler et devenir une fille hélicoptère. Et ça va marcher. Elle va savoir se débrouiller désormais toute seule, sous l'œil très vigilant de son papa. Et donc, elle a grandi des racines et des ailes. C'est ça l'amour parental. Mmh. Et certainement l'amour des pères doit penser à ça.
Mmh. Parce qu'un jour, ils s'envolent. Bon, un papa, c'est aussi de la tendresse en barre, qu'ils n'ont pas toujours le temps et, ou le loisir d'ailleurs d'exprimer, surtout quand c'est un garçon et qu'il y a un peu de compète. Hein,
bah entre... Oui, ce vieux schéma, on parlait avec Maud des nouveaux pères, des nouveaux hommes, etc. Mais enfin, le côté taiseux, c'est quelque chose qui existe toujours. Et la fête des pères, c'est une occasion quand même pour mettre des mots, surtout à l'heure actuelle, et accueillir dans le grand sourire, non pas le collier de pâte, mais le porte-couteau en poterie ou que sais-je. Comme autre dessin, je vous présente un livre qui s'appelle simplement « Papa » de Nicolas Mathieu. C'est sorti chez Actes Sud Junior. Et vous voyez, il s'agit d'un papa de la préhistoire. Parce que cette histoire de père-fils, elle est vieille comme le monde. Il y a de l'amour, certes, mais ça a du mal à se dire. Et alors ce papa caverne, on pourrait être... C'est totalement anachronique. Il parle d'une sortie d'école. Il parle de choses qui sont actuelles. Et quand même, c'est un papa caverne. Un homme de la préhistoire qui regarde son fils parce que finalement, bon, certes, il n'intervient pas beaucoup, il laisse faire, il regarde et d'un seul coup, il est déjà nostalgique parce qu'il voit cet enfant qui est en train de grandir, qui fait son entrée à l'école, qui sait faire tout seul et d'un seul coup, ça lui manque déjà. Il voudrait arrêter
le temps.
Mais exactement. Il voudrait arrêter le temps qu'il n'y ait que cet amour, cette complicité père-fils qui existe. Et oui, donc voilà, vous voyez, je reviens sur ma petite introduction parce que mettre de la tendresse et surtout la mettre en mots et en histoire comme c'est fait dans ce merveilleux livre qui s'appelle Papa. Et on voudrait, vous savez, à la fin, le cadeau qui est fait, parce qu'il le voit partir pour faire le cadeau de la fête des pères. Il est parti avec des buissons de couleur jaune et tout. Le cadeau de la fin, c'est dans une caverne. Et en fait, le gamin, il a mis ses mains partout. Oh, ça compose un cœur et c'est une trace éternelle que nous avons retrouvée et que nous retrouvons dans des millions d'années.
Non, Nathalie, vous avez fait pleurer.
Que d'émotion.
Mélanie Gomez est en train de pleurer.
Vous lui avez mais on les aime, nos papas. Merci.
Mais qu'est-ce
beaucoup,
qui vous arrive,
Mélanie Nathalie.
On
c'est le moment de leur dire.
Allez, on n'y manquera pas, évidemment. On les retrouve dans toutes ces références de ces livres sur Europe1.fr et toutes vos recommandations chaque mois dans les box notissées au temps.fr.
Voilà, bien fait pour vous du lundi au vendredi, bien sûr, de 11h à midi.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
L'Info Express à 6h18, Lénaïque Monnier.
Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer, battue au deuxième tour des législatives en Guadeloupe, scrutin marqué sur l'île par une faible participation, un peu plus de 28%. L'abstention qui pourrait être forte également en métropole, alors plus de 48 millions d'électeurs sont appelés aujourd'hui à choisir leurs députés. Les bureaux de vote ouvrent à 8h ce matin. Les températures vont enfin chuter. On a l'impression que cette canicule précoce a duré une éternité. Des records ont été battus hier, comme à Biarritz par exemple, le mercure a flirté avec les 43 degrés du jamais vu depuis 2003. Pendant ce temps, Châteauroux dans l'Indre est toujours privé d'eau potable. Une bactérie de type E. coli a été détectée. Pas d'eau du robinet donc pour les 25 000 habitants de la ville. Des points de distribution d'eau potable sont mis en place par la mairie jusqu'à 18h. En Ukraine, ce rare déplacement de Volodymyr Zelensky en dehors de Kiev depuis le début de la guerre. Le président ukrainien s'est rendu à Mykolaïv hier dans le sud du pays. Et puis en natation, ça commence fort, très fort pour la France au championnat du monde à Budapest. Léon Marchand, 20 ans, est désormais champion du monde. Il a gagné sur le 404 nages.
Avec ce joli titre, hein, en une de l'équipe ce matin, Marchand de bonheur. Merci Lénaïque, à tout à l'heure. Dans un instant, Mathieu Noël, en avocat de lui-même. Merci d'être avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h20, Mathieu Noël à présent. Maître Mathieu Noël, qu'on réécoute le dimanche matin à cette heure-ci. Mercredi dernier, il était avocat de lui-même.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
7h43, l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Bon, ce matin, maître, fait inédit dans l'histoire du barreau, vous vous défendez vous-même.
Oui. Je vous rassure, je me suis fait un prix. Moins 10% sur mes honoraires.
Hein. C'est pas conseillé, hein, généralement.
Oui, normalement non, mais là c'est exceptionnel. Je pourrais pas me regarder dans la glace si je me faisais pas un prix. Donc je me fais un petit prix. Et ce matin, Dimitri, je plaide coupable. Je vais déroger à la règle d'or que je m'étais fixée en début de saison, ne pas avoir de tête de turc. Hormis vous, 100 ans. J'ai toutefois, je crois, une circonstance atténuante, le caractère exceptionnellement chiant de l'actu. On se parle franchement là, on est en fin de saison, on s'en fout. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi déprimant que cette campagne des législatives. C'est comme la saison 2 d'En Thérapie ou la saison 8 de Lost, tu regardes mais tu sais plus pourquoi. Quant au fond, au programme des candidats, tout le monde en parle mais personne ne les regarde, soit exactement l'inverse de Jackie et Michel. Vous connaissez Jackie et Michel, Dimitri?
Ah, oh là là, oui.
Faites des captures d'écran, mon vieux, ils sont en garde à vue. Jackie et Michel, fini les petits moments de détente en salle de repos et surtout en ce qui vous concerne, fini les droits d'auteur sur ce joli film amateur qui vous avait permis de financer vos études de journalisme.
Deux femmes et un Ukrainien.
Si là vous n'aviez pas montré Madame Choleva, hein. Il avait pourtant décroché le prix Un certain regard lubrique au festival du porno amateur d'Odessa. Il était des... T'es dans le jury, Anissa, je crois. Donc, entre les législatives que tout le monde s'en fout, le faux lapsus de Mélenchon sur les fachos, dont je ne peux pas me moquer ici, vu que, question lapsus, Dimitri est quand même le champion de toute catégorie, lui qui a réclamé à corps et à cri, et plusieurs fois, l'interdiction du bikini. Sick.
Solution pour interdire le bikini dans les piscines. J'ai dit bikini, vous aurez corrigé de vous-même, c'était le burk.
Oui, parce que le bikini, croyez-moi, ceux qui ont vu deux femmes et un Ukrainien savent que Dimitri n'a rien contre. Hein. Au contraire, notamment dans la scène du jacuzzi. Bref. Devant la tristesse abyssale de l'actualité, j'allais me résoudre à tomber dans le marronnier humoristique du bac de philo, quand soudain, il m'est apparu comme la Vierge Marie à Bernadette Soubirousse, comme Moïse. Il a, d'une seule déclaration, fendu en deux la mer rouge du politiquement correct.
L'âne flo-flo.
Non, Dimitri, l'autre, Willy Schrein. Willy, pour moi, c'est comme du crack pour les toxicos de la Porte de la Villette. Quand tout dans l'actu me paraît morne, polissé, sans relief, j'ai besoin de ma dose, d'un grand shoot de n'importe quoi. Willy Schrein, le patron des chasseurs, c'est la coke du chroniqueur satirique. Et hier, il a encore frappé très fort en inventant le complotisme climatique. Accrochez-vous à vos neurones, intellectuellement, ça dépote. Tout part d'une observation attentive de l'actu. Willy trouve un peu bizarre que les chaînes info nous parlent en boucle de la canicule qui arrive. Pour lui, tous ces sujets sur la vague de chaleur, c'est louche. Alors hier, chez nos confrères d'RMC, où l'Einstein de la chasse à la glu a son rond de serviette, Willy a dit tout haut ce que beaucoup d'amateurs de Beaujolais pensent tout bas. Écoutez.
Quand même qu'il va faire chaud pendant 3 jours. Bizarre, on est entre les deux, le premier et deuxième tour.
On nous explique
du matin jusqu'au soir depuis 2 jours. Attention, l'écologie. Dites-le carrément au niveau de la météo. Votez la nuque, on va gagner du temps. On a compris, on n'est quand même pas débiles, on a bien compris.
Eh ben, c'est vrai, on n'est pas débiles, Dimitri. Et pourtant, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. Si les chaînes infos sont en boucle sur la canicule, pile durant l'entre-deux tours des législatives, c'est pour qu'on vote pour la nupe. comment on l'a pas vu. Mais tout s'éclaire, surtout quand Willy conclut en disant, je le cite, « Et les rapports du GIEC qui sortent tous les trois jours quand on est dans les élections, ça commence à bien faire aussi !» Mais oui, Dimitri, il était passé sous les radars des plus complotistes d'entre nous, le complot Lolo Romeshko, cheval de Troie des climato-bolcheviques qui veulent nous effrayer avec la canicule afin qu'on vote écolo. Heureusement que je sais, je me souviens de la déclaration de Willy, que les chasseurs sont les premiers écolos de France, sinon j'aurais eu un peu peur. Merci Willy d'avoir été là quand j'avais besoin de toi une fois de plus. Ça nous a évité les blagues sur le bac de philo. Les épreuves démarrent dans quelques minutes maintenant. Je souhaite à tous les élèves qui nous écoutent bonne chance. J'espère que vous décrocherez votre bac. C'est important les études si vous voulez pas finir comme moi, assistant Nesquik de star du showbiz, obligé, oui, d'obéir au doigt et à l'œil d'une vedette parfois très exigeante, si vous saviez ce qu'il me demande en antenne.
Mathieu, allez me chercher des fleurs, c'est pour ma maîtresse.
Écoutez, il n'est pas 8h, mon chauffleur ouvre à 9h, j'y serai à 9h01, je ne peux pas faire mieux. Hein. Et puis laquelle, en plus, donnez-moi le prénom, je m'y perds.
Ah, il y en a un qui va avoir des problèmes à la maison.
On embrasse Madame Pavlenko, c'est pour rire, c'est pour
vous
rire.
Vous êtes un affreux, merci maître.
Les plaidoiries de Mathieu Noël du lundi au jeudi à 8h moins le quart.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, dans 5 minutes, le journal deuxième tour des élections législatives. Aujourd'hui, on ira dans un petit village de l'Orne où tout le monde a voté la semaine dernière. Et puis notre envoyé spécial, sécheresse, on verra les conséquences économiques pour l'agriculture. Mais tout de suite, un peu de musique.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Spéciale sécheresse aux côtés de nos agriculteurs ce matin, vous le savez. Vous réagissez hein, si vous le souhaitez sur notre page Facebook Europe Matin Weekend, 6h30 sur Europe 1, l'information de ce dimanche matin. Victor Pourchet, bonjour Victor.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Deuxième tour des législatives aujourd'hui et la crainte de l'abstention, mais pas dans ce village de l'Orne où les habitants ne ratent jamais une élection. Reportage dans ce journal.
Cette sécheresse donc qui frappe nos agriculteurs, on vous en parle tout au long de votre matinale week-end ce matin. Les professionnels redoutent une grosse baisse des récoltes.
Et puis retour sur une belle histoire de l'escrime française. Romain Canon, déjà champion olympique, peut-être bientôt champion d'Europe.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, 6h40, l'écrivain Bernard Werber est l'invité de Philippe Legrand. Et puis à 7h10, la balade du dimanche avec Vanessa Zah. Aujourd'hui, direction la Bretagne à Pont-Aven sur les traces des peintres. Mais avant cela, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
La Bretagne sous la pluie justement à cause d'une dégradation orageuse dans l'ouest aujourd'hui. La canicule qui persiste à l'est, plus de vigilance rouge, mais 31 départements en orange canicule et 24 en orange orage. Il fera jusqu'à 40 à Auxerre.
La météo version longue, c'est dans 7 minutes.
Europe 1.
À vos bulletins de vote, c'est jour de scrutin pour le deuxième tour des élections législatives aujourd'hui.
Oui, les isoloirs accueillent déjà les votants depuis hier en Outre-mer ou en Amérique. En toile de fond, toujours l'abstention. Au premier tour, elle était à un niveau record. Aucune chance que cela arrive à Champ-de-la-Pierre. Dans cette petite commune de l'Orne, elle est à 0% et c'est une habitude. Reportage Nina Droff.
Dans la minuscule mairie du Champ-de-la-Pierre, tout est prêt pour l'élection. Une petite pièce dans le fond fait office d'isoloir. Les bulletins sont disposés et l'urne trône sur la table.
Nous avons 28 inscrits et nous espérons en avoir 28 votants.
La semaine dernière, comme souvent, tous les habitants sont venus voter. Une fierté pour la maire Jeanne-Marie Boudet.
Je pense qu'ils ont le sens du civisme, les habitants. Voter est pour eux un devoir.
Hervé, 84 ans, habite la commune depuis bientôt 10 ans et vient systématiquement mettre son bulletin dans l'urne.
Si la démocratie n'est plus le reflet des votes, c'est la fin des figues. D'ailleurs, celui qui ne voudrait pas voter, je vous garantis qu'on va le chercher par le pot du dos et il vient voter. Et on boit un pot après, mais enfin, il vient voter.
Et c'est aussi ça qui attire les électeurs. Dans la commune, les élections sont toujours un petit événement. Jérémy et Marcel sont toujours au rendez-vous.
On est tous réunis, on fait un barbecue, on joue aux boules, on passe la journée devant la mairie.
Le devoir et la convivialité, c'est la mayonnaise qui fait que ça marche.
Et tous les habitants espèrent que l'abstention sera à nouveau à 0% pour ce scrutin.
Nina Droff pour Europe 1. Et dans les premiers résultats, en Guadeloupe, la secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, a été battue. Elle devrait donc quitter son poste au gouvernement.
Et puis notez bien, soirée électorale sur Europe 1 dès 18h avec Pierre de Villeneuve, puis analyse et résultats avec Laurence Ferrari dès 19h sur Europe 1 et CNews. Autre sujet d'actualité, la canicule qui continue de toucher la France.
Et particulièrement les 14 départements toujours placés en vigilance rouge. Nouveau record de température hier à Biarritz, 43 au Cap Ferré, 42 et encore à Biscarrosse dans les Landes, 41. Ça devrait se rafraîchir un peu aujourd'hui.
Alors on en reparlera bien sûr dans quelques minutes avec Valérie Darmon à la fin de ce journal. Conséquence de ces chaleurs dont on vous parle toute la matinée sur Europe 1. Eh bien c'est la sécheresse qui touche nos agriculteurs, une véritable catastrophe pour eux.
Oui, car cet épisode s'ajoute à bien d'autres aléas climatiques comme la grêle il y a quelques semaines. Résultat, la Chambre d'agriculture de France craint une baisse d'un cinquième des récoltes cette année, Carole Ferry.
Il y a déjà la sécheresse qui sévit depuis la mi-avril. Il y a eu ensuite la grêle qui a endommagé une partie des cultures au début du mois de juin. Il y a bien eu quelques épisodes orageux mais qui n'ont pas suffi à compenser le manque d'eau. Résultat, les rendements pourraient afficher une baisse de 20% voire plus, notamment sur le blé, selon le président des chambres d'agriculture de France, Sébastien Winsor.
On le constate déjà avec les dates de moisson, hein, on a une partie de la France qui est déjà en pleine moisson des blés, qui est quand même quasiment du jamais vu. On va avoir 10-15 jours de décalage. Dans un certain nombre de cas, des grains qui n'ont pas pu aller complètement à maturité, qui n'ont pas pu grossir comme il faut, et on va récolter moins de grains et des petits grains. Donc on va perdre du rendement.
Et spécificité cette année, toutes les régions de France sont concernées, y compris le Nord. Les fruits risquent de particulièrement souffrir également dans la Drôme et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors il n'y a pas forcément de risque de manque, mais cette baisse de rendement entraînera forcément une hausse des prix.
Carole Ferry, chef du service report, service économie d'Europe 1. Une sécheresse propice aux incendies. 140 hectares de végétation ont brûlé hier dans l'Aveyron. Dans le Var, un tir d'artillerie d'entraînement de l'armée a provoqué l'embrasement d'environ 600 hectares.
Des fortes chaleurs qui modifient également les habitudes des Français. Hein.
Oui, dans les départements classés rouges, par exemple, des événements ont dû être annulés, mais d'autres activités du quotidien se trouvent aussi chamboulées. Alors comment s'adapte-t-on ? Timothée Denebouy est allé poser la question.
On n'arrive pas à dormir la nuit parce que les appartements ici sont assez... ils ne baissent pas en température la nuit. Je suis venue ici parce que je croyais trouver de la fraîcheur et de l'eau. A priori, non, il n'y a pas d'eau, de point d'eau pour les enfants.
On s'adapte, on va moins vite, hein. Donc ça va, mais on s'inquiète quand même pour tout ce qui se passe au niveau du climat et à la façon qu'on a de vivre.
Il faut s'y faire, hein, de toute façon. Il faut chercher le frais, voilà, au jardin, à l'ombre, en buvant un peu d'eau et tranquille, pas s'agiter.
Propos recueillis par Timothée Denebouy pour Europe 1. En Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Odessa, au sud, une première visite dans cette ville ravagée par les frappes russes depuis le début du conflit. T-shirt et pantalon kaki, il a remercié ses troupes pour, je cite, « leur service héroïque ».
Et puis Victor, c'est un petit événement aux États-Unis.
Oui, on en a un petit peu plus l'habitude, mais un magasin Apple du Maryland aura bientôt son syndicat. Les 110 employés se sont prononcés à la majorité en faveur de cette création. Un scrutin diffusé en direct sur Internet. La marque à la pomme avait jusqu'ici réussi à décourager toute tentative de syndicalisation.
On passe au sport à présent. La France a un nouveau champion du monde en natation.
Léon Marchand, seulement 20 ans, rendez-vous compte. Ce grand espoir des bassins français a remporté l'or en 400 mètres nage, 4 nages aux mondiaux qui se tiennent à Budapest.
Et puis l'épéiste Romain Canon tentera lui de décrocher le titre européen aujourd'hui. Hein.
Oui, ça se passe à Antalya, en Turquie. Une étape importante pour lui, Axel May, puisqu'il faut confirmer l'exploit de sa victoire surprise aux Jeux Olympiques de Tokyo.
C'était le 25 juillet dernier. La première Marseillaise des Jeux de Tokyo résonne à l'occasion du sacre surprise de l'épéiste Romain Canon. Un titre dont les retombées sont rapides pour le natif de Boulogne-Billancourt.
Avant les Jeux, j'avais pas de sponsor. Mes sponsors, je dis souvent, c'était mes parents. Du coup, j'ai pu réussir à avoir un ou deux sponsors, ce qui est vraiment très bien. Ça me donne une stabilité, mais j'ai aussi pu commencer un travail, un peu moins d'un mi-temps.
C'est l'un des principaux sponsors des Jeux de Paris 2024 qui a embauché Romain Canon comme contrôleur de gestion. Place maintenant au championnat d'Europe où il aura un statut de favori à assumer, Hugo Brie et son entraîneur.
L'heure de vérité, c'est les grands championnats. Il va avoir une étiquette dans le dos. Il a pu le voir tout au long de la saison, avec rien qu'au niveau national, avec beaucoup d'attention sur lui, des médias locaux qui viennent en bord de piste carrément l'agresser, des petits jeunes qui viennent prendre des photos alors qu'il est en train de tirer. Ça, il n'avait pas connu ça, il a dû s'en apprendre.
L'escrimeur Romain Canon semble en tout cas sur le bon chemin. Il a remporté pour la première fois de sa carrière une épreuve de Coupe du Monde il y a un mois.
Axel May pour Europe 1. Et puis un petit mot pour vous rappeler de ne pas oublier fête des pères.
Bien sûr.
Aujourd'hui.
Passez un petit coup de film, hein, si n'oubliez pas. Merci beaucoup, c'est le journal de Victor Pourchet. A tout à l'heure, Victor. Valérie Darmon, après la chaleur, c'est quoi? Les orages, hein, c'est ça?
C'est souvent c'est ce qui se produit. Hein. Donc on a des orages ponctuels sur la façade ouest actuellement. Ils ont démarré hier dans le sud-ouest. Ils remontent vers la Normandie. C'est là qu'ils sont là tout de suite maintenant. Certains d'entre eux sont assez forts, accompagnés de quelques rafales de vent, surtout d'une forte activité électrique. Donc ça pète sur la Bretagne et la Normandie et même en région parisienne. Donc ce sont les prémices d'une dégradation pluviorageuse, plus franche, plus organisée, attendue pour ce soir sur toute la façade ouest et la canicule de son côté qui régresse pour ne plus concerner que le flanc est du pays. Donc on a encore un certain nombre de vigilances orange, orages et canicule sur la France aujourd'hui.
Valérie, on regarde les maximales?
Alors justement, 40 annoncés à Auxerre par Météo France, 38 à Strasbourg et à Montluçon, 37 à Cahors et à Colmar, 36 à Lyon et Mâcon, 35 à Grenoble, 34 à Gap, à Saint-Étienne également, 31 en région parisienne toujours, à Carcassonne, à Angoulême, 28 à Évreux et à Rennes, 26 à La Roche-sur-Yon, 23 au Havre, 17 à Boulogne-sur-Mer. Ces températures qui sont très contrastées pour aujourd'hui. Ouais,
merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure. Allez, à 7h10, on va partir en balade, bien sûr, balade rafraîchissante avec Vanessa Zah, direction Pont-Aven. On va notamment en parler peinture, mais tout de suite, Philippe Legrand. Vous le savez, tous les dimanches matins, un invité des archives, on regarde dans le rétro, une date, une histoire. Ce matin, les confidences de l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 2018, une chanteuse disparaît. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour Philippe.
La science. La science-fiction, la spiritualité, les animaux, l'au-delà, nos vies passées, vous êtes l'écrivain passionné qui fait de nos interrogations des aventures romanesques. Le chiffre 30 semblerait vous porter chance, 30 romans, 30 ans en pole position dans le monde des lettres, 30 traductions de vos œuvres, 30 millions de lecteurs. Il n'y a pas un jour où un pays ne parle pas de vous et de vos livres. 30 ans après votre premier succès, Les Fourmis, vous en donnez une suite aujourd'hui avec Mémoire d'une fourmi. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 7 mai 2018. La chanteuse Morane disparaît. Le témoignage de Muriel Robin sur Europe 1.
C'est très triste, c'est très triste. La plus belle voix du monde. J'ai toujours dit à Morane, tu as la plus belle voix du monde. Voilà, tu as la plus belle voix du monde. J'ai essentiellement avec Morane des souvenirs de... À nous, des enfoirés, évidemment, le nombre d'enfoirés qu'on a fait ensemble. J'ai des souvenirs personnels quand vous avez une Morane qui chante... chez vous, comme ça, avec Liane, Catherine Lara, que les trois se mettent à chanter une chanson avec des... Voilà, c'est... On est avec les anges, à ce moment-là. Donc maintenant, elle les a rejoints, les anges.
Voilà ce que nous dit Muriel Robin dans cette archive d'Europe 1. Le 7 mai 2018, c'est la date que vous avez choisie. Oui. Morane nous quitte. Muriel Robin ajoute une voix. Et quelle voix? C'est vrai qu'on a comme ça dans l'oreille et en tête Mama ou Prélude de Bach. Et bien d'autres. Pourquoi ce choix, Bernard Werber?
Parce que Morane était une grande amie, qu'on nous voyons souvent, et qu'il y a eu une connexion très forte qui existait entre nous. En fait, je crois que la première rencontre, c'était dans une émission, elle avait souhaité me rencontrer. Donc j'étais une sorte d'invité surprise. Et après, nous sommes rencontrés physiquement et nous avons pu discuter. Et puis je me suis aperçu que c'était quelqu'un d'humainement extraordinaire, hypersensible, une sensibilité qui ressemblait beaucoup. Elle se définissait comme dans la même sensibilité que Brel. Et je crois que ce côté belge, hyper attentif, hyper vigilant, était le point commun avec Brel. Et elle était surtout très marrante. Elle avait énormément d'humour. Et un jour, elle m'a demandé de venir réaliser son clip pour les âmes et pour les hommes. Et là, pendant tout le tournage, qui a duré 2 jours, j'ai découvert une personne encore plus extraordinaire. Parce qu'elle est une très bonne actrice, elle est très pro, elle est perfectionniste. Et en même temps, elle le fait dans la bonne humeur et la décontraction.
Bernard Werber, c'était une artiste complète, comme vous l'avez vu devant votre caméra et puis dans les coulisses, c'est ce que voilà. Vous nous expliquez ce matin sur Europe 1. Et puis, effectivement, il faut le dire, mais peu de temps avant de disparaître, elle travaillait, elle avait retrouvé sa voix, puisqu'elle avait eu, vous savez, un œdème et un souci qui avait été traité. Et elle avait retrouvé sa voix, elle travaillait avec France Brel, la fille de Jacques Brel, justement sur un album dans lequel elle revisitait les grands titres de Jacques Brel. Elle vous en avait parlé ?
Oui, mais c'était déjà... pour elle, c'était son grand projet. On s'était eu au téléphone peut-être une semaine avant son décès, et elle m'a dit « Je reviens, tout va bien, et cet album, ça va être vraiment quelque chose ».
Lou, sa fille, Bernard Werber, s'est exprimée. Hein, elle a rappelé, au fond, aussi, vous disiez, sa très grande sensibilité. Derrière, il y avait quelques souffrances. Et puis, des déceptions sentimentales et cette inquiétude sur sa voix. Et toujours, elle rebondissait. C'est ce que l'on entend là dans votre témoignage, avec cette volonté de trouver la bonne humeur partout.
Écoutez, la dernière fois le dernier souvenir vraiment, mignon que nous avons eu ensemble, elle venait d'avoir un petit chaton et elle était à fond concentrée sur ce chaton qui détruisait tout dans son appartement. Il y avait deux ou trois de ses amis qui étaient là et c'était comme un enfant qui découvrait son pouvoir. Et je l'ai vu, elle était vraiment en train de retrouver toute son énergie, toute sa joie de vivre avec ce petit animal. Et c'était un instant vraiment extraordinaire. Voilà, c'était dans sa maison à Bruxelles.
Bernard Werber, vous qui avez aussi beaucoup écrit, je disais en vous présentant, sur les animaux qui vous inspirent, les chats en particulier, ça a été un sujet pour votre rencontre. Ça a compté, ça, ou pas, ce lien que vous avez avec vous aussi, avec le monde animal?
Avec Morane, nous parlions évidemment de tas de sujets, mais elle est très, très cultivée, elle est très curieuse de tout. J'avais l'impression que c'était un esprit comme un enfant, qui avait gardé sa capacité d'émerveillement total devant tout. Et nous parlions aussi des animaux.
Bernard Werber, dans Mémoire au pluriel, d'une fourmi qui paraît aux éditions Albin Michel, c'est votre livre du moment, votre livre à lire. Alors, est-ce que c'est une biographie? C'est vous qui vous racontez. Quelle est la part entre le roman et la vérité? Parce qu'au fond, vous avez choisi, allez, on le dit comme c'est d'ailleurs annoncé, 22 chapitres, 22 arcanes d'un jeu de tarot, et là pour révéler les secrets de vos romans. Vous dites tout et c'est vous qui parlez sans trucage, sans tricher, devant le miroir ou la page blanche.
C'est mes souvenirs, mais c'est surtout l'idée de transmettre un savoir-faire, expliquer pour ceux qui veulent être auteurs ou ceux qui veulent créer, expliquer comment, chez moi, le processus a fonctionné et comment je pense qu'il peut fonctionner chez les autres. Il y a une part d'opiniâtreté, vu que j'ai mis 12 ans à écrire Les Fourmis, et puis il y a aussi une capacité à saisir les occasions. Je crois que dans la vie, on a tous des occasions. Il faut rester vigilant, il faut rester attentif. Et puis une fois qu'on a décollé, il faut arriver à se remettre tout le temps en question. Il faut arriver tout le temps à se remettre dans la zone un peu inconfortable pour pouvoir ne pas endormir et ne pas s'endormir soi-même.
Alors, c'est ce que vous faites dans Mémoire d'une fourmi. Allez, on va le dire comme ça, vos mémoires aussi.
Oui.
En vous arrêtant aux âges. On commence déjà, au fond, à l'adolescence avec 14 ans et le titre « Surprise dans la nuit ». Et là, je veux dire qu'on est très surpris parce que vous rajoutez à un moment donné « J'avais un revolver sur la tempe ». C'est en Corse.
Oui, c'est un pur incident. Il y a quelqu'un, un restaurateur qui m'avait pris pour quelqu'un d'autre alors que j'étais dans un camping avec un groupe d'amis. Et donc j'avais 14 ans et il m'a, vu qu'il ne voyait pas très bien parce qu'il s'était battu et il avait reçu des coups de couteau
au visage,
oui. il m'a pris pour l'autre et il a voulu me tuer. Et au moment où il m'a dit « je vais te tirer dessus », en fait, je me suis juste dit, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie.
Et vous n'avez rien fait de mal. Et ce qui est assez stupéfiant, Bernard Werber, c'est quand vous racontez ça, nous lecteurs, devant, au fond, votre témoignage, on se dit, mais il est d'un calme olympien.
C'est un problème, c'est que dans les situations difficiles, j'ai l'impression que je m'en vais de moi. C'est comme si je me fuyais à moi-même. Et je regarde ça comme si ça arrivait à un personnage extérieur. Ce qui fait que je pense que dans toutes les situations de crise réelle, mon incapacité à me mettre en colère, mon incapacité à m'émouvoir peut être un réel problème. Parce que c'est des choses qui datent de l'homme préhistorique, de la survie, et je ne l'ai pas. Dès qu'il arrive quelque chose, je regarde ça comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre.
Bernard Werber, merci d'avoir été avec nous ce matin. On a retrouvé d'une certaine manière la voix et la vie de Morane à travers au fond ce témoignage du 7 mai 2018 au moment de sa disparition. Votre livre à lire s'intitule « Mémoire d'une fourmi » aux éditions Albin Michel, et vous avez choisi cette chanson qui est dans votre playlist pour les âmes et pour les hommes. On retrouve Morane.
Avec plaisir.
Belle voix de Morane pour les âmes, pour les hommes en 2000. C'était le choix de Bernard Werber ce matin, l'invité de Philippe Legrand.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h-10, l'essentiel de l'info de ce dimanche, Victor Pourchet.
Canicule et record de température battus dans le sud-ouest. 43 à Biarritz ou encore 41 à Biscarrosse. Conséquence de ces fortes chaleurs, plusieurs incendies à déplorer. Dans le sud-est notamment, 140 hectares de végétation brûlés hier dans l'Aveyron. 600 hectares dans le Var à cause d'un tir d'artillerie dans un camp d'entraînement de l'armée. Un coup de vent soudain et dramatique. Hier, en début de soirée, de violentes rafales ont balayé la côte normande pendant 20 ou 25 minutes. À Villers-sur-Mer, dans le Calvados, un kitesurfer a perdu la vie. 3 autres personnes ont été légèrement blessées. Le phénomène n'était pas prévu par Météo France. Jour de scrutin aujourd'hui, celui du deuxième tour des élections législatives. Les bureaux de vote ouvrent à 8h en métropole. Ils sont déjà ouverts en Outre-mer ou encore pour les Français en Amérique. Dans les premiers résultats, en Guadeloupe, la secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, a été battue. Un syndicat chez Apple, un magasin de la marque à la pomme dans le Maryland, l'aura bientôt. Les 110 employés se sont prononcés pour sa création, le tout diffusé en direct sur Internet. Jusqu'ici, Apple avait réussi à décourager toute tentative de syndicalisation. Un mot de sport, il était déjà un grand espoir de la natation française. Léon Marchand, 20 ans, est désormais champion du monde. Il a remporté l'or sur l'épreuve du 400 mètres 4 nages aux Mondiaux de Budapest. Et en rugby, c'est Montpellier qui rejoindra Castres en finale du top 14. Les Héroltais sont venus à bout des Bordelais 19 à 10 hier soir à Nice.
Merci Victor. À 7h, le prochain journal spécial sécheresse auprès de nos agriculteurs ce matin. Vous le savez, nous serons dans l'Hérault où vous verrez que les remontées salines rongent les vignes. Et puis nous serons à Kramatorsk en Ukraine où se trouve notre envoyé spécial Nicolas Tonev. C'est votre matinale week-end sur Europe 1. Dans un instant, la balade du dimanche, direction Pont-Aven. On revient sur Europe 1.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche avec Vanessa Zah. Bonjour Vanessa.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et toujours son Marion qu'on embrasse, bien évidemment. Alors ce matin, on va partir respirer les embruns, direction la Bretagne. Je vois que vous avez mis votre coiffe, Vanessa, en bonne bretonne que vous êtes.
Tout à fait.
Et ça fera plaisir à Lénaïque, qu'on va retrouver bien sûr tout à l'heure dans le journal de 7h. On va se poser à Pont-Aven, dans le Finistère.
À l'occasion d'une très belle exposition, on est là.
Ouais. Hein, attention, bonne ambiance. Il y a des mouettes.
J'ai ma coiffe. C'est bon, je suis protégée. Une très belle exposition qui a lieu au musée de Pont-Aven. Mathurin Méheux, l'arpenteur de la Bretagne. Et c'est un peintre très connu. Est-ce que Thierry, vous le connaissez, vous, par hasard?
Dites-moi, non, pas
voilà,
trop.
En fait,
pas
c'est,
trop,
c'est un artiste du 19e qui est né en Bretagne, alors qui a fait sa carrière à Paris, mais qui a beaucoup peint la Bretagne. C'est d'abord un dessinateur qui est fascinant parce qu'il a un trait de crayon, une capacité à observer, à savoir croquer les instants, les gens, de manière assez incroyable,
très
spontanée.
Coloré, hein,
et très coloré, vous allez voir. Il a réalisé des milliers de dessins qui représentent des paysans, des marins, des goémoniers. Et puis, il les a peints après. Il a composé des tableaux et en particulier des scènes de la vie quotidienne, comme des processions, des pardons, avec un regard, donc, vous le dites, hein, coloré, très figuratif, très, très moderne et jamais nostalgique, en fait. Hein.
Alors, j'ai une peinture que vous m'avez amenée sous les yeux, là, je confirme, c'est très contemporain, coloré, on l'a dit. C'est vraiment une immersion bretonne. Hein.
Donc, complètement. Alors là, c'est une scène de pardon. Bord de la mer, on est dans les bleus métalliques, les violets, les violines, les orangés. Voilà. Et puis, regardez bien.
Oui.
Regardez bien le tableau, il y a
on
quelque chose.
Bah, regardez. Cirque aussi dans le fond. Oui. Je crois que c'était une fête religieuse, les pardons, non?
Eh bien, en fait, pas que. Alors, moi aussi, j'étais surprise.
Ouais.
Denis Michel Boël, qui est conservateur général du patrimoine, nous en dit un peu plus.
Les pardons, c'était des fêtes qui avaient lieu tous les ans. Il y avait la dimension religieuse. La procession, il y avait le port des reliques, le port des statues, les bannières, etc. Mais en même temps, c'était la grande fête annuelle qui scandait le calendrier des communautés locales. Et donc, sachant qu'il y avait tout ce monde qui convergeait, hein, parfois par dizaines de milliers de personnes dans les plus grands pardons, il y avait une offre de friandises à manger, une offre d'auberges de plein air, et puis il y avait aussi, évidemment, une offre de spectacle qui est une dimension profane, une fête foraine qui coïnciderait avec une fête, on va dire, civile ou religieuse.
Ah, donc avec Mathurin Méheux, en fait, on replonge dans ces traditions, mais toujours avec un angle un peu différent, un peu plus original. Cette exposition, elle débute samedi prochain et vous avez jusqu'au 31 décembre pour la voir.
Et Vanessa, on le dit à nos auditeurs, Europe Matin Week-end, on va mettre les
photos.
Les photos, bien
les
sûr,
photos,
les peintures,
des peintures
sur notre site. Donc, c'est au musée de Pont-Aven, d'ailleurs. Quand on entend le nom de Pont-Aven, on pense, moi je pense au sablé, mais enfin ça c'est autre chose. On pense d'emblée à l'école de Pont-Aven. On peut se faire un petit rappel peut-être.
Oui, alors évidemment, je pense que vous savez, mais il y a eu l'école de Barbizon, de Saint-Tropez. Eh bien, Pont-Aven aussi a eu son petit groupe d'artistes qui sont venus travailler sur place à la pension Glohagen mythique. Ils ont partagé leur technique avec à leur tête, eh bien. Paul Gauguin, et c'est pour ça qu'on surnomme Pont-Aven la cité des peintres.
Et ça veut dire quoi? Que c'est Gauguin qui a découvert Pont-Aven?
Eh bien, en fait, pas du tout. C'est Henry Bacon, c'est un peintre américain qui va poser en fait son chevalet. Le premier, on est en 1864.
D'accord.
Il tombe sous le charme de l'exotisme breton. Je dis exotisme, ça peut faire sourire, mais c'est la culture bretonne qui va lui plaire, qui va plaire à ses compatriotes américains, qui va faire venir, c'est-à-dire les costumes, les fest-noz, les pardons dont on parlait, les bretons, tout simplement. Mmh. Et c'est que 22 ans plus tard, en 1886, que Gauguin va débarquer, que vont suivre des peintres comme Sérusier. Et à l'époque, c'est vrai que c'est d'autant plus facile pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'invention des tubes de peinture. Ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin de peindre enfermés dans leurs ateliers. Mmh. Et ils vont fabriquer leurs propres peintures, pouvoir les emporter avec eux et peindre ce qu'on appelle sur le vif ces belles gueules bretonnes, bien burinées, ces ports, ces navires. Et ce coin-là, en plus de Bretagne, est un coin très sauvage, préservé à l'époque, et il l'est toujours aujourd'hui.
Alors on se prend quelques galettes de Pantavène, voilà, et on part se balader
quelques kilos. du côté de la chapelle de Trémalo, où Gauguin d'ailleurs aimait peindre son fameux Christ jaune. Et puis il adorait longer la rivière de la Vienne, s'y baigner après avoir peint au Poule du. Alors justement, il y a une sublime balade d'une quinzaine de kilomètres qui vous conduit à la petite station balnéaire donc de Port-Manec. Mmh. C'est une station pour moi qui est un vrai coup de cœur. C'est un point de départ pour remonter la Vienne en bateau, en voilier, même si vous le pouvez. Hein. Ouais. C'est magique parce que le temps est suspendu, la lumière est incroyable en fin de journée. Vous êtes transporté dans un tableau, surtout quand vous passez devant Rosbras et Cardrug, deux petits ports qui sont restés dans leur jus, très pittoresques. Après, il faut sauter à terre, déguster des huîtres avec un petit verre de vin blanc au bistrot de l'Écaillé à Cardrug. Et même encore mieux, si vous pouvez, et ben vous poussez jusqu'au Belon à Rieck-sur-Belon pour dîner chez Jackie. C'est une institution, vous allez vous créer des souvenirs, parce que c'est ça aussi, hein, les voyages, découvrir, rencontrer, créer des souvenirs, voilà, ouais. C'est dit.
Des adresses où poser nos chevalets, nos valises?
À la carrière, hein, deux chambres d'hôtes dans des lodges sur les hauteurs de Pont-Aven, très design, lumineux, calme, ou au moulin de Rosmadec dans le centre Pont-Aven, un ancien moulin avant du 15e siècle, avec une terrasse ombragée. Ouais. Vous avez quasiment les pieds dans l'eau en ce moment, ça fait du bien. Parfait. Puis pour vous tirer une crêpe au caramel au beurre salé, ça s'impose, non?
Ah bah,
allez,
carrément,
une adresse. La crêperie, le talisman, sans aucun doute.
Bon dimanche à Pont-Aven et ailleurs. Merci Vanessa.
Bon dimanche à tous.
À la semaine prochaine.
À la semaine
de 7h dans un instant. Bon réveil à tous sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Il est 7h.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et soyez les bienvenus, hein, si vous nous rejoignez. Toute l'information avec Lénaïck Monnier. Bonjour Lénaïck.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Quand le sel ronge les vignes, nous parlons, vous le savez, de la sécheresse ce matin et de ses conséquences. Nous irons chez un viticulteur de l'Hérault.
Matinale spéciale sécheresse, en effet. Serez-vous nombreux à vous rendre aux urnes? C'est le point d'interrogation qui plane sur les législatives.
Et puis comment éviter de galérer au grand oral du bac à partir de demain? On vous donne des astuces pour assurer devant le jury.
Juste après ce journal, je recevrai l'hydrologue Emma Aziza pour reparler sécheresse et modèle agricole. Comment le monde paysan peut-il tenir? Et puis vers 7h23, un petit tube et puis s'en va, nous retrouverons Mathieu Alterman qui nous parlera de ces artistes partis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Elle est là, et bien là, la tendance météo Valérie Darmon.
Et l'épisode caniculaire aussi, sur une grande partie est de la France cette fois. Toujours en vigilance orange canicule avec 31 départements en alerte. Forte dégradation rageuse attendue en soirée aussi ce dimanche de la Nouvelle-Aquitaine au bassin parisien avec 24 départements en orange orage.
Météo complète dans 7 minutes. Matinale consacrée à la sécheresse ce matin et à tous ces secteurs qui en souffrent. L'activité viticole est particulièrement touchée.
Plusieurs facteurs, le gel, la grêle et bien sûr la sécheresse. À Sérignan, dans l'Hérault, la plaine est rongée par le sel à cause d'un phénomène mécanique. L'orbe qui coule à côté est asséchée et la mer en profite pour avancer. En conséquence de quoi, les vignerons voient leurs pieds de vigne mourir les uns après les autres, rongés par une trop forte salinité. Reportage de notre correspondant Benjamin Péter.
Là, tout ça, c'est mort de la salinité. Hein. C'est tous les pieds qui manquent.
Pierre Calmel de la cave coopérative de Sérignan se désole en parcourant cette parcelle de merlot où des dizaines de pieds ont disparu.
Celle-là aussi, là, l'impact, regardez, ça commence déjà. Les feuilles qui commencent à griller. Voilà, c'est normal, c'est au printemps, enfin au mois de juin, c'est en plein boom, là, ça pousse du feu de Dieu. Et ça, cette souche, l'an prochain ou dans deux ans, elle est morte. Et là, le signe du sel, regardez, je ne sais pas si vous voyez dans le sol. Ces taches noires, un peu, c'est les remontées salines.
En 30 ans, ce sont 195 hectares qui ont été perdus à cause du sel. C'est parce qu'en amont, on puise de plus en plus dans l'orbe pour l'agriculture et les nouveaux lotissements que le débit ne permet plus de repousser l'eau de mer qui pénètre dans le lit du fleuve.
Depuis une vingtaine d'années, le phénomène s'accentue. Du coup, comme il n'y a plus beaucoup d'eau qui arrive, de l'orbe, ça n'arrive pas à chasser l'eau de mer, si vous voulez. Et là, il n'y a plus rien à faire. Les racines tapent dans la croûte de sel. Et plus il fait chaud, plus il y a de la sécheresse, plus ça accentue le phénomène. Et ça progresse d'année en année.
Pour limiter le phénomène, ils inondent leurs vignes tous les hivers pour lessiver les sols. Une technique ancestrale utilisée initialement pour lutter contre le phylloxéra, mais ils réclament également la création d'un barrage pour empêcher les remontées d'eau de mer. À Sérignan, Benjamin Péter, Europe 1.
Et attention, avec la chaleur et la sécheresse, le risque d'incendie est très important. 600 hectares de végétation ont brûlé hier dans le Var, le feu est parti d'un tir d'artillerie dans un camp militaire de Canjuers. Aujourd'hui, l'ouest va un peu souffler. Les alertes rouges rouges ont été levés et la vague de chaleur va se dégager vers l'est. Vous le saurez à la fin du journal avec Valérie Darmon.
Lénaïque, à la une de l'actualité également, les élections législatives. Bien sûr, les Français votent ce dimanche pour élire leurs députés.
Ils seront 577 à constituer la future Assemblée nationale. Et si la participation a été historiquement faible au premier tour, elle pourrait l'être encore plus aujourd'hui. Alexandre Chauveau, un sondage IFOP pour le JDD, estime l'abstention à plus de 54%.
Oui, et comme la semaine dernière, ce devrait être à nouveau le premier parti de France ce dimanche. Alors ce ne serait pas un record pour un second tour de législative, puisqu'il y a 5 ans, 57% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Mais cela reste un fait évidemment majeur de cette élection et qui illustre le désintérêt d'une grande partie des électeurs pour ce scrutin. Dans les faits, l'abstention est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Elle touche aussi beaucoup les jeunes. 73% n'ont pas voté la semaine dernière et il devrait être autant ce dimanche. Autre caractéristique, elle concerne le niveau de revenu des abstentionnistes. 46% des électeurs les plus aisés ont ainsi prévu de s'abstenir, contre 62% pour les plus modestes. Enfin, l'abstention varie en fonction des territoires. Elle est ainsi particulièrement élevée en Seine-Saint-Denis, où 62% des électeurs ne se sont pas déplacés la semaine dernière, mais aussi dans le Val d'Oise et en Moselle. A l'inverse, la mobilisation est nettement plus forte dans les Pyrénées-Atlantiques, en Haute-Vienne et dans le Lot, département qui a le plus voté au premier tour, avec 60% de participation.
Alexandre Chauveau, les Antilles notamment ont voté avant la métropole, 28% de participation en Guadeloupe et la défaite de la secrétaire d'État à la mer Justine Bénin. À 9h tout à l'heure, on sera dans un bureau de vote puisque les bureaux ouvrent précisément dans une heure.
Et soirée spéciale ce soir sur Europe 1 dès 18h avec nos reporters et nos invités, puis à 19h sur Europe 1 et CNews avec Laurence Ferrari. L'actualité à l'étranger, c'est une image assez rare, celle de Volodymyr Zelensky en dehors de Kiev.
Il s'est rendu à Mykolaïv dans le sud du pays, ville portuaire toujours sous contrôle ukrainien, mais qui reste une cible de Moscou puisqu'elle se trouve sur la route vers Odessa. Les forces russes qui continuent de bombarder l'est du pays.
Et justement, ce matin, nous prenons la direction à présent du Donbass où les combats sont toujours plus intenses.
Et nous revenons ce matin à Kramatorsk. Souvenez-vous, c'est cette ville dont la gare avait été bombardée le 8 avril dernier. Il y avait eu plus de 50 morts. Depuis, la cité est traumatisée. Ses habitants vivent en permanence dans le fracas des sirènes d'alerte aux bombardements. Le reportage de Nicolas Tonev.
Un son lancinant, envahissant, abrutissant. Le front venu par haut-parleur dans les rues de Kramatorsk. Et pourtant, Irina est là devant son magasin d'alimentation ouvert, pimpante et indifférente.
Oh, c'est du matin au soir, 24 heures sur 24, ces sirènes d'alerte au bombardement. Je ne les remarque plus, je ne les entends plus, ça fait 3 mois que ça dure.
Irina possède 7 épiceries. Elle est donc aux premières loges pour observer ce qui se passe en ville. Et première remarque paradoxale, les clients sont de plus en plus nombreux.
Ces deux dernières semaines, il y a une tendance étrange. Plus le front se rapproche, plus il y a de gens qui reviennent en ville. Je pense que les gens partis il y a 2 ou 3 mois, c'est ma supposition, n'est-ce pas? Je crois qu'ils rentrent à la maison parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer l'exil.
Deuxième remarque, venue des soldats en permission, eux aussi, clients d'Irina.
Ils nous rassurent toujours et disent « Ne vous inquiétez pas, nous ne les laisserons pas arriver à Kramatorsk. Tout ira bien. » Et nous les croyons. Nous espérons parce que si tu n'espères pas et si tu ne crois pas en des moments pareils, à quoi bon vivre?
La nuit tombe, Irina rentre chez elle. Au loin, des grondements inquiétants. Encore au loin. À Kramatorsk, Nicolas Tonev, Europe 1.
Et la guerre en Ukraine qui pourrait durer encore des années, c'est la mise en garde du secrétaire général de l'OTAN dans une interview publiée ce matin dans le quotidien allemand Bild.
7h07, retour en France, c'est le dernier week-end pour bachoter.
Le grand oral du bac débute demain. Chaque candidat dispose de 20 minutes pour potasser un sujet tiré au sort parmi une liste de questions étudiées pendant l'année scolaire. Vient ensuite l'échange avec le jury et c'est là que ça peut se corser pour les lycéens les plus introvertis. Alors comment prendre la parole de façon claire et de façon convaincante? Charlie Clark forme au quotidien des chefs d'entreprise à la prise de parole. Voici ses conseils.
La première des choses, si vous voulez faire la différence au moment de votre oral du bac, c'est de sourire. Parce que le jury que vous allez rencontrer, il va voir défiler beaucoup de lycéens et la plupart ne souriront pas, ils seront stressés. Si vous vous souriez déjà, vous sortirez du lot. Il y a un vrai sujet au niveau des pieds, ils doivent être solidement accrochés au sol. Quand on parle, on a souvent envie de bouger, croiser ses pieds, ce sont des marqueurs d'instabilité. Ça va vous empêcher de réfléchir. Et en faisant ça, vous allez libérer complètement votre corps et votre communication. Forcément, le regard va suivre. Et enfin, parfois, il faut laisser le temps à certains silences de s'installer. Il ne faut pas forcément répondre trop vite aux questions, vouloir absolument s'accrocher à des mots. Et les mots que vous venez de prononcer résonnent et on vous écoute deux fois mieux. Être charismatique, c'est bien souvent d'abord apprendre à se taire.
Charlie Clark, formateur en prise de parole avec Louise Salé.
Les sports Montpellier qui rejoint Castres en finale du top 14.
Troisième finale de son histoire pour le club après son succès 19-10 à domicile. C'était face à Bordeaux-Bègles et la finale aura lieu vendredi prochain au Stade de France.
Et merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La météo. Valérie Darmon, on regarde d'abord les températures, les maximales.
Oui, qui sont très contrastées aujourd'hui, contrairement à hier, hein, avec un net rafraîchissement à l'ouest et au nord, de fortes chaleurs à l'est. Les minimales, entre 12 et 15 degrés des Hauts-de-France à la Bretagne, 17 à 22 de la région parisienne au sud-ouest, 20 à 24 sur la moitié est. Les maximales qui plafonnent entre 19 et 26 sur les régions bordant la Manche, entre 23 et 28 sur la façade atlantique, voisine de 30 toujours sur le bassin parisien, 30 à 35 du sud-ouest à la Méditerranée, du centre à l'est et au nord-est, c'est là qu'elle culmine entre 33 et 38 degrés, localement un peu plus en plaine d'Alsace. Et ce sont d'ailleurs ces départements qui restent en alerte orange canicule.
Ouais, c'est ça, encore beaucoup de départements en alerte orage, hein.
Aussi, oui, 24 départements après les records de chaleur battus hier. Le temps qui tourne donc à l'orage sur l'ouest de la France. Ce matin, ces averses orageuses qui concernent essentiellement les régions proches des côtes de la Manche, jusque sur le bassin parisien. On a quelques ondées passagères aussi sur les Pays de la Loire, tandis que des pluies plus durables touchent le Finistère. En cours d'après-midi, on a de nouvelles averses orageuses qui se développent sur le Perche et puis sur le sud-ouest. Et en soirée, ce front pluvio-orageux qui va circuler de la Nouvelle-Aquitaine au centre, jusque de nouveau sur le bassin parisien et puis la Champagne. Ces orages qui sont localement forts, avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent, bien sûr, à surveiller.
Prudence, bien sûr. Merci Valérie. À tout à l'heure, 7h30. Allez, restez avec nous. Notre matinale spéciale sécheresse et ses conséquences pour nos agriculteurs, nos producteurs, nos éleveurs se poursuit. Dans un instant, je reçois l'hydrologue Emma Aziza. À quoi s'attendre cet été? Faut-il repenser notre agriculture? On en parle ce matin sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'invité actu de ce dimanche matin, 7h11, on poursuit notre matinale spéciale sécheresse avec vous Emma Aziza, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes bien sûr hydrologue, fondatrice de Mayan, c'est un centre de recherche appliqué dédié à l'adaptation climatique. On le montre, on l'explique depuis ce matin sur notre antenne. Est-ce que ce qui se passe, cette sécheresse, est anormal ou est-ce que c'est en train de devenir finalement une normalité?
Eh bien, c'est une anormalité qui devient une normalité. Et ce qu'il faut comprendre dans cette sécheresse, c'est qu'on a une multiplicité de facteurs qui l'aggravent. D'abord, on n'a pas eu d'eau durant la période où normalement nous avons une recharge des nappes phréatiques. C'est-à-dire que vraiment, on a manqué d'eau du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, qui est normalement cette période qui permet de soutenir le printemps et l'été. Donc ça déjà, c'est un facteur aggravant. Ensuite, on a eu un mois de mai particulièrement chaud, puisque c'est le plus chaud jamais recensé en France.
Ouais.
Donc on voit bien que ce changement climatique, on est en train de le vivre. Et puis vous rajoutez à ça ces températures caniculaires, et là, on fait plonger la France sous un sèche-cheveux. Et cette évaporation massive fait qu'à un moment donné, on plonge plus rapidement dans quelque chose de désastreux.
Mais est-ce que vous êtes inquiète pour cet été? Est-ce qu'on s'oriente vers une sécheresse historique?
Vraisemblablement, on s'oriente vers une nouvelle sécheresse historique, mais plus grave que toutes les sécheresses historiques que l'on a vécues en 2017, 2018, 2019 et 2020, qui, elles aussi, étaient historiques, mais avec des scénarios différents, qui avaient eu de l'eau l'hiver et qui, souvent, la sécheresse avait été accélérée par les phénomènes de canicule. Là, vous avez tout. Vous n'avez pas d'eau l'hiver, vous avez la période de caniculaire. Donc, nécessairement, on va vers quelque chose d'énorme, à moins que durant la période du estival, on vive le scénario qu'on a vécu l'année dernière, où on va avoir de l'air très froid qui arrive, issu de vortex polaires, qui fait qu'on a eu beaucoup de pluie sur la France l'année dernière. Mais c'était vraiment une bulle bleue, si vous voulez, entourée de masses d'air très très chaudes, où tout brûlait tout autour.
Est-ce qu'on peut dresser ce matin une carte des territoires les plus touchés en France ?
Alors, il y a des territoires plus sensibles à la problématique d'eau, parce qu'en fait, la question de l'eau dépend de la géologie de nos territoires. Donc là où l'eau est située dans nos sous-sols, il y a des endroits dans lesquels les nappes phréatiques sont quand même assez stables et pourraient permettre de nourrir des populations pendant 20 ou 30 ans, malgré des sécheresses records. Et puis, vous avez des endroits où les nappes phréatiques sont très fragiles et à la moindre sécheresse, elles réagissent et on n'a plus d'eau.
Ouais. Donc, alors,
je dirais le Grand Ouest, ouais, et puis le pourtour méditerranéen.
Dans le journal de 7 heures, on entendait le reportage de Benjamin Péter dans l'Hérault. Les sols puisent dans l'eau de mer, il y a donc des remontées salines. Et du coup, on l'a entendu, hein, les pieds de merlot à Sérignan, précisément, sont morts, sont complètement grillés. On a le sentiment que la terre, finalement, ne fait plus son boulot, quoi.
Alors ça c'est un phénomène qui s'appelle le biseau-salé, donc c'est une lorsque vous allez soutirer trop fortement la nappe phréatique ou bien que vous avez des périodes de sécheresse trop importantes, vous avez cette entrée d'eau salée, d'eau de mer qui pénètre au niveau des nappes. Et donc ça c'est un problème qu'on a partout dans le monde. Alors c'est pratique en Andalousie parce que ça permet d'avoir des tomates directement salées, parce qu'on a vraiment ce problème qui est majeur, mais effectivement chez nous on ne sait pas faire de l'agriculture en eau saumâtre, donc ce mélange d'eau douce et salée, et c'est un vrai problème, et effectivement ça fait partie des conséquences que l'on voit de ces sécheresses extrêmes.
Vous dites on ne sait pas, ça veut dire quoi? Qu'il faut globalement repenser notre agriculture en France?
Eh bien, en fait, on n'a juste pas le choix. C'est pas, y a plusieurs choses dans l'agriculture. La première chose, c'est que de toutes les façons, elle va devoir s'adapter parce que la culture d'été telle qu'elle est menée aujourd'hui ne peut plus perdurer telle qu'elle existe parce qu'on n'a plus les quantités d'eau qui permettent de tenir. Et puis, on a une question de ces canicules qui sont en train de se répéter, qui sont en train de nous annoncer un nouveau modèle où le bétail ne tient plus. Est-ce qu'on va mettre le bétail sous climatiseur? C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on va gérer? Et donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de se remettre en question. Mais en plus, l'agriculture est à la fois la première victime et à la fois un de ceux qui génèrent ce changement climatique. Parce que la manière dont on a traité nos sols, c'est à la fois une aggravation du risque de sécheresse et donc de l'accélération de l'évaporation parce que les sols ne maintiennent plus l'eau, donc ça accélère l'effet de serre. Et à la fois, on voit très bien que ça peut être une solution majeure. Donc si on transforme notre agriculture, on va aider à capter le CO2, à retenir l'eau dans nos sols. Mais pour ça, il faut remettre de la vie dans nos sols.
Ouais. Mais alors justement, Emma Aziza, l'hydrologue avec nous ce matin sur Europe 1, comment on permet à l'eau de retourner dans les terres? Comment on permet à l'eau de retourner dans les nappes phréatiques?
Eh bien, déjà en modifiant l'état des sols. Si vous avez des sols extrêmement secs, qui sont pauvres, qui ont été principalement attaqués par des couches et des couches de pesticides, la pesticide veut dire qu'il tue la peste, c'est-à-dire qu'il tue toutes les formes de vie qu'on va avoir dans un sol. Or, on sait très bien que ce sol était essentiel pour permettre une autre fertilité. Et même ce que l'on appelle des mauvaises herbes, eh bien, ce sont juste des herbes qui permettent de capter du CO2. Oui. Donc, il va falloir repenser notre manière de voir l'agriculture. Les monocultures telles qu'on les envisage sont plus possibles. Le fait d'avoir des vallons entiers, parce qu'on a déforesté massivement en France pour mettre de l'agriculture sur l'après-guerre, eh bien, ils sont face au soleil. Et on voit très bien qu'avec ces températures caniculaires, ça ne fonctionne plus. Il faut remettre de l'arbre, il faut remettre de l'ombre et à ce moment-là, et en même temps si on met de la vie dans la terre, eh bien ça fonctionne, mais ça prend du temps.
On continue à évoquer avec vous les solutions. Est-ce que ces solutions, elles viennent aussi des communes? On en parlera à 8h moins le quart dans Ça vous concerne, mais est-ce qu'il faut repenser la ville? Est-ce que les maires ont aussi un rôle crucial à jouer?
Oui, les maires ont un rôle crucial à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables, à travers notamment leur plan communal de sauvegarde, de la gestion des risques et de la gestion des crises sur leur territoire. Ils sont aussi le premier maillon de lien avec la population. Donc, ils peuvent mener de nombreuses actions. Et donc, on a parlé de l'agriculture. Ils peuvent aussi être ce lien avec les agriculteurs pour les aider, les accompagner à se transformer. Mais il y a aussi cette question d'artificialisation de nos territoires. On a bétonisé massivement. Et donc, ce côté minéral de nos villes, il faut maintenant revenir en arrière. Et il va falloir remettre du vert parce qu'en fait, plus vous mettez du vert, plus de vous éviter au soleil de taper directement sur nous et de nous mettre dans un four, en fait. Donc, il faut tout simplement essayer de reverdir nos villes et de laisser l'eau pénétrer dans nos sols. Donc, il faut débitumer massivement.
C'est passionnant ce que vous dites ce matin. Dernier point pour nous, consommateurs. Est-ce qu'on va avoir des difficultés pour se nourrir à terme ?
Alors, on commence déjà à voir l'ombre avec le coût du prix du blé, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Russie, mais pas que, puisqu'on voit très bien que l'Inde conserve son blé. On voit que la Chine commence à avoir des chutes drastiques de leur rendement agricole. Donc, eux aussi vont venir peser très fortement au niveau mondial. Et donc, on va voir que ce sont les plus forts qui réussiront à acheter sur le marché mondial. Et donc, plus on va acheter à côté, à faire appel aux maraîchers, essayer de transformer notre modèle, plus on va devenir résilient et moins on sera dépendant des marchés mondiaux.
Spécial sécheresse qui se poursuit ce matin sur Europe 1. Reportage, bien sûr, dans le journal de 7h30. Et puis, on en reparlera dans le dossier de Valérie Darmon à 7h45. L'hydrologue Emma Aziza, ce matin, sur Europe 1. Grand merci à vous, madame.
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'info express à 7h21. Léna Hickmonnier.
Et Météo France lève sa vigilance rouge canicule dans le sud-ouest du pays. Malgré tout, nous ne sommes pas au bout de nos peines puisque 50 départements du centre et du nord-est restent en alerte orange canicule et orage. La guerre en Ukraine pourrait durer des années. Voilà la mise en garde du secrétaire général de l'OTAN dans une interview publiée ce matin dans le quotidien allemand Bild. Il faut s'y préparer même si les coûts sont élevés. Pas seulement en ce qui concerne le soutien militaire, mais aussi en raison des prix de l'énergie et de l'alimentation. Les bureaux de vote ouvrent dans 3 quarts d'heure. Environ 48 millions de Français vont choisir aujourd'hui leurs députés. Majorité absolue ou pas pour le chef de l'État, le scrutin déterminera quelle coalition sera en pole position. La semaine dernière, on a assisté à un très fort taux d'abstention. Et c'est le cas déjà en Guadeloupe, 28% de participation. Et ce premier résultat, la secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, qui a été battue. Ça commence très fort pour la France au championnat du monde de Budapest. Le tout jeune Léon Marchand, 20 ans, a décroché l'or. Le voici champion du monde sur 400 mètres, 4 nages.
Merci Lénaïque. À tout à l'heure. Allez, on se détend un peu à présent.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Tous les week-ends, lui multiplie les prouesses des chroniques formidables qui se renouvellent à chaque fois. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour Thierry.
Alors Mathieu, ce matin, vous nous parlez des tubes, un tube et puis s'en va.
Ben oui, évoquons ce matin ces artistes qui ont connu le grand succès, mais juste une fois.
Ouais, ouais.
C'est One Hit Wonders, comme on les appelle dans les pays anglo-saxons. Alors vous êtes prêts Thierry?
Ouais.
Voici venu le classement des rois et reines d'une saison.
P-Lion.
Le plus célèbre des One Hit Wonders, le français Patrick Hernandez.
Il a fait fortune avec ça. Hein.
Born to be alive, né pour être vivant, certes, mais uniquement en 1979. Hein. Alors qu'importe si le chanteur, qui est également compositeur du tube, vit très confortablement depuis,
ouais.
Il n'a aucune intention d'enregistrer un nouvel album, il savoure depuis 43 ans.
Exact.
Autre succès unique pour F.R. David. Si, si, souvenez-vous de Words.
C'est bien ça.
Numéro 1 dans 11 pays, mais FR semble toujours bloqué en 1982. Et en même temps, hein, il a raison, il est à jamais le son de son époque, hein, entre Walkman et Sweatshirt Newman. 1984, énorme carton pour La Roche-Valmont avec ceci.
T'as le look, coco. Coco, t'as le look.
Malheureusement,
ça,
sans
c'est
lendemain.
Mon époque, ça.
Bah, c'est votre époque, ouais. Hein, vous avez dansé là-dessus, mais c'est sans
50,
lendemain pour La Roche-Valmont.
Europe 1 que j'écoutais.
C'était avant le top 50, 6 mois avant d'ailleurs.
Ah bon?
Exactement.
Bon.
Sans lendemain, malheureusement, pour La Roche-Valmont.
Ouais. En même temps, Mathieu, ils avaient des noms un peu risqués, on va le dire, quand même, pour marquer les esprits. FR David, La Roche-Valmont, ça sent les pseudos décidés de nuit au poker ou ailleurs.
Oui, enfin, leurs vrais noms respectifs, hein, c'était Robert Fitoussi et Jean-Quentin Gérard. Hein.
Ouais.
Ça sonne
c'est
quand même
vendeur.
Beaucoup moins bon que David Bowie. Alors, dans le genre plus simple, hein, comme patronyme, on a eu Les Avions avec Nuit Sauvage. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi à faire un vol retour. Hein. Alors, un tube dépasse toute logique finalement. François Mitterrand, alors président, avoue écouter avec plaisir C'est la Ouate par Caroline Loeb.
De toutes les matières, c'est la Ouate qu'elle préfère.
Mais pour celle-ci, ce sera coton de retuber avec les disques suivants. Hein. Philippe Lafontaine restera au sommet du top 50 avec ce titre.
Pas le temps de tout lui dire.
pas le temps de tout lutter.
Mais il ne rentrera plus jamais au top 50 avec un autre. Le succès tellement énorme finit par vampiriser son interprète que l'histoire oublie naturellement. Qui se souvient du nom Billy the Kick caché derrière ce culte Mangez-moi.
Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est vous, Thierry. Il y avait un double texte dans cette chanson. Bon, Mathieu, on ne tube qu'une fois en France, mais également chez les artistes étrangers ou
c'est
pas
tout pareil. Ah. Hein. Qui connaît un autre succès de Richard Sanderson, à part celui-ci?
Ah bah oui.
Quant à Rockwell, tout le monde le prenait pour Michael Jackson avec cette chanson qui sera son seul numéro 1. Et Sam Brown. Sam Brown est un nom aujourd'hui bien oublié, alors que sa chanson Éternelle passe toujours en radio et demeure utilisée dans maintes campagnes publicitaires. Moralité, tubé une fois est merveilleux, il ne faut pas ruminer amèrement un coup du destin qui ne se reproduit plus, c'est du champagne dans un gobelet, ce qui est préférable au mousseux dans du cristal, et les paillettes autour de ces mélodies nous font toujours le même effet, tel un champion qui n'aurait gagné qu'une fois, mais avec panache. Bon dimanche.
Kim Carnes,
1981, un seul tube.
Aïe, 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 aïe. Et les partenaires particuliers, on n'en a pas parlé.
Deux tubes, partenaires particuliers.
Ah, pardon,
ça n'entre pas en catégorie.
À la semaine prochaine, Mathieu, merci.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Vous êtes éleveur, vous êtes agriculteur, vous êtes concerné par cette sécheresse. On continue bien sûr à en parler ensemble depuis 6h sur notre page Facebook Europe Matin. Week-end, il est 7h30 sur Europe 1 et le journal vous est présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ouverture des bureaux de vote pour le deuxième tour des législatives. Nous serons à La Réunion pour prendre la température.
La sécheresse qui n'en finit pas de toucher nos agriculteurs, donc nous serons chez des céréaliers en Dordogne dans ce journal.
Et puis on connaît la finale du top 14, ce sera Montpellier contre Castres.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, la une du JDD. Aujourd'hui elle est consacrée aux législatives, bien sûr, les unes de vos quotidiens ce matin. Et puis dans Ça vous concerne, on parlera de ces maires ruraux qui aident leurs agriculteurs. Mais d'abord, la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, le temps qui se dégrade à l'ouest, la canicule qui persiste à l'est, plus de vigilance rouge, mais 31 départements de la moitié est en orange canicule et 24 en orange orage.
Et la météo version longue, c'est dans 7 minutes. Alors, vous vous préparez sûrement à aller voter deuxième tour des élections législatives aujourd'hui, ou pas, hein, si l'on en croit en tout cas les forts taux d'abstention aux dernières élections.
Oui, elle a été de 52,5% au premier tour, un record. Ouverture des portes des bureaux de vote à 8h, donc en métropole. Ça a déjà commencé en Outre-mer et pour certains Français de l'étranger. Et on retrouve tout de suite notre reporter à La Réunion. Tout est prêt, mais les réunionnais sont pour l'instant peu nombreux, Charles Lhuillier.
Oui, dans ce bureau à Saint-Denis, l'un des plus grands de la ville. Seulement 5 électeurs se sont déplacés durant le premier quart d'heure. Les assesseurs, comme Marie, se préparent déjà à une journée calme, voire un peu ennuyeuse.
Non, mais on regarde les oiseaux passer. C'est long, on tue le temps. Moi, je n'ai pas ramené de jeu, dommage. Et s'il n'y a personne, on va dans la cour, on va attendre. On va essayer d'appeler les copains pour qu'ils viennent nous voir. Non, c'est vraiment triste.
L'avantage dans ces conditions, c'est que les très rares électeurs ne s'éternisent pas dans les bureaux. Tout a été réglé en quelques minutes pour Eva et Jean-Michel.
On met son bulletin, on se casse. Voilà, c'est l'avantage de l'abstention, même pas 5 minutes.
Aussi de voter, aussi de rentrer. Et puis bon, on est tranquille. C'est incroyable. Tout le monde s'en fout. Il n'y a personne.
Là où il y a du monde, c'est à 50 mètres de ce bureau, dans une boulangerie ou dans la très longue file d'attente. Les clients ne semblent pas du tout préoccupés par la question électorale.
Bah là, je vais aller acheter du pain. On n'a pas forcément le temps d'aller voter aujourd'hui. C'est la fête des pères, on se prépare et on a autre chose à faire. Honnêtement, même si j'avais le temps, j'y serais pas allé.
Une abstention ici qui, comme dans la majorité des départements d'outre-mer, a dépassé les 70% dimanche dernier. Saint-Denis de La Réunion, Charles Lhuillier, Radio Freedom pour Europe 1.
Et puis bien sûr, soirée électorale sur Europe 1 dès 18h avec Pierre de Villeneau et puis analyse et résultats avec Laurence Ferrari dès 19h sur Europe 1. Et CNews, retour en France et à la chaleur avec une accalmie aujourd'hui.
Oui, Météo France a déclaré ce matin la fin de l'alerte rouge dans les 14 départements concernés. Alors 50 départements restent tout de même en vigilance orange, du centre au nord-est. 32 autres sont en alerte jaune en attendant l'épisode orageux prévu dans la journée.
Et puis on vous en parle depuis le début de votre matinale week-end. La sécheresse qui frappe de plein fouet les agriculteurs.
Et notamment ceux de la Nouvelle-Aquitaine. Elle n'a pas été épargnée, elle était concernée par cette alerte rouge canicule. Peu de pluie ces derniers mois, des températures jamais enregistrées. enregistré auparavant. Une équation forcément terrible pour les agriculteurs, avec de vives inquiétudes pour les récoltes à venir. C'est notamment le cas en Dordogne, où s'est rendu pour Europe 1 Stéphane Place.
Moi, j'ai jamais vu ça. Il fait trop chaud. Ça a quand même du mal à pousser. Ça jaunit déjà un petit peu.
Plus de 40 degrés ici à Saint-Martial d'Artensé. Cédric n'en revient pas, salarié dans cette exploitation agricole de 130 hectares. Le trentenaire constate l'impact de cette sécheresse qui n'épargne pas ce joli coin de Dordogne. Et à l'œil nu, Dominique Lecomte, à la tête de cette ferme bio où l'on cultive du blé, du maïs, des légumes, évalue les conséquences de ce déficit de pluie.
On commence à constater les bouts d'épi qui blanchissent, quoi. Bon, ben, quand ça blanchit, en plus, ça veut dire ce sont des épis qui ne sont pas pleins. Quand on va ramasser, ben, tout ça, ce sera des grains vides, quoi. C'est là où tout de suite on voit rendement et qualité qui vont être complètement altérés, quoi. Je pense que cette année, on a déjà au moins un tiers du résultat de la ferme qui est en l'air. C'est vrai que la gestion de l'eau aussi est complexe. On va maintenir l'irrigation sur tout ce qui est des cultures, notamment en alimentation humaine, qui sont en plus normalement des cultures à plus haut rendement financier. Il faut faire des choix.
Un céréalier périgourdin qui reconnaît se sentir un peu désarmé face au dérèglement climatique. Un dérèglement qui remet en cause les techniques, les repères et les habitudes agricoles.
Stéphane Place pour Europe 1. Et la Chambre d'agriculture de France redoute d'ailleurs une baisse des récoltes de 20% cette année.
Okay, pour savoir si votre département est concerné par les restrictions d'eau, vous pouvez vous rendre sur le site ou l'application europe1.fr, carte mise à jour en temps réel. Alors après ces fortes chaleurs, l'orage, on vous le disait tout à l'heure, dans la capitale par exemple, les températures redescendent, les Parisiens en profitent.
Oui, après un record de température battue avec un pic à 38 degrés dans la journée et un ressenti à 45 parfois, il était temps de se détendre. Alors les Parisiens sont sortis prendre l'air sur les quais de Seine pour respirer un peu, enfin, et Mathieu Limongi est allé à leur rencontre.
Que demande le peuple ?
Il fait bon, on respire enfin. Petite bouteille de rosé et puis un peu de fraîcheur, ouais.
Température redescente, là ça va être bien, on va se rafraîchir.
On est venu se poser là, près du point d'eau, avec l'herbe, pour se rafraîchir et manger un peu.
On est bien, on profite, hein. Il y a beaucoup de glaçons, on a pris 2 sachets de glaçons, au moins.
On a une glacière avec des jus, du soda, on a une enceinte, pour se détendre, pour se rafraîchir.
Voilà, santé.
Propos recueillis par Mathieu Limongi du service reportage d'Europe 1.
7h35, la situation en Ukraine et l'OTAN qui réaffirme son soutien.
Oui, par la voix de son secrétaire général Jens Stoltenberg. Au journal allemand Bild, il déclare que la guerre pourrait durer des années. Nous ne devons pas faiblir dans le soutien à l'Ukraine, même si les coûts sont élevés, a-t-il précisé.
Alors vous comptez peut-être acheter un nouveau téléphone prochainement ou un nouveau climatiseur avec ces fortes chaleurs, peut-être même un reconditionné, mais attention. Hein.
Oui, de plus en plus de Français se tournent vers le marché du reconditionné pour faire des économies ou par souci d'écologie. Selon une étude du cabinet Kantar, 3/4 des Français se disent prêts à franchir le pas de ce nouveau mode de consommation. Mais est-ce que l'on fait réellement systématiquement de bonnes affaires sur ces sites ? Noah Moussa, la plateforme de vente d'appareils reconditionnés conditionné Back Market est dans la ligne de mire de l'association de consommateurs UFC Que Choisir.
Eh bien oui, l'association a déposé plainte mercredi pour pratiques commerciales trompeuses avec parfois des surprises au moment de payer le produit en ligne, comme l'explique Raphaël Bartholomé, responsable juridique de l'UFC Que Choisir.
Back Market affiche un prix sur ses annonces qui ne sera pas celui qui sera payé. Au fur et à mesure du processus, il y a une commission qui est ajoutée sans aucune information. Ensuite, Back Market laisse croire que ce prix, eh bien, il est en promotion, moins 30, moins 50%, alors qu'il s'agit simplement d'une comparaison entre un produit d'occasion et un produit neuf.
Et du côté de Back Market, on assure jouer la carte de la transparence à toutes les étapes de l'achat d'un produit. Marine Libon, responsable de la communication du site, réfute donc les accusations de l'association.
C'est bien précisé que c'est une comparaison de prix qui est effectuée par rapport au même produit neuf. Donc en fait, le consommateur est totalement au courant qu'on n'est pas en train de dire que c'est une promotion. Les frais de service vont de 0,49€ à 5,99€ maximum, donc toujours calculé sur le prix total du panier.
Par ailleurs, le site de produits reconditionnés assure en aucun cas traquer les habitudes d'achat de ses clients si ces derniers se sont opposés à l'utilisation de leurs données.
Noah Moussa du service économie d'Europe 1.
Allez, le sport pour terminer, le rugby. Montpellier se qualifie pour la finale du top 14.
Oui, victoire 19-10 hier soir, samedi, face à l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice. Écoutez l'émotion pour le demi de mêlée Benoît Payog au micro européen de Stéphane Burgat.
L'année dernière, on a chié comme des rats morts, vraiment. Et on ne s'est jamais lâché. C'est la juste récompense d'un groupe. On n'est pas les meilleurs, loin de là. Mais je pense qu'on a quelque chose à l'heure actuelle que Bah, que Castres A, parce qu'on est les deux derniers. Beaucoup de raisons, mais on a su rester froid et dans ce qu'on voulait être, dans ce qu'on voulait faire, dans ce qu'on s'était dit, on s'est pas menti. Enfin, je vous cache pas que ça n'a pas été simple, hein. Moi je suis très heureux d'être là. Chabourg, parce qu'il y a quelques mois j'étais loin d'imaginer de jouer. Très 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 loin d'imaginer de retrouver les mecs et faire des phases finales. Et de se retrouver là, c'est peut-être le destin.
Benoît Payog et les Héroltais affronteront donc Castres
bien
en finale.
Sûr, bien sûr. On n'oublie pas que c'est la fête des pères aujourd'hui. Vous avez appelé votre papa, Victor ?
Pas encore, mais je pense qu'il dort.
Bon. Les pères doivent toujours donner pour être heureux. Donner toujours, c'est ce qui fait qu'on est père. C'est Honoré de Balzac dans Le Père Goriot. Voilà. Merci Victor, à tout à l'heure. Valérie Darmon. Véronique à Blois nous dit qu'il pleut. Bruno à Lyon aimerait qu'il pleuve, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est moins chaud, mais c'est très orageux. Hein ?
Effectivement, après cette chaleur extrême, avec des valeurs entre 37 et 39 sur une large moitié ouest et dans le centre de la France, où les records mensuels n'ont pas cessé de pleuvoir les uns après les autres hier. D'autres sont à venir encore aujourd'hui, mais cette fois du côté est. Les températures de cette nuit ont continué d'afficher 20 à 25 sur bon nombre de régions. Alors, l'air suffocant atteint aujourd'hui l'est de la France. Toujours en alerte orange canicule avec 31 départements en alerte, alors que la masse d'air dans le sud-ouest devient de plus en plus instable, donnant des orages et des vigilances orange-orage pour 24 départements. Donc cette journée qui s'annonce orageuse de la Vendée, des Pays de la Loire à la Normandie et Hauts-de-France ce matin, et puis du nord de l'Aquitaine au bassin parisien en soirée. En Bretagne, vous passez la journée sous des pluies parfois orageuses. La chute des températures est impressionnante. Après les 35 à 39 d'hier, vous n'avez que 15 à 25 aujourd'hui de maximum à Brest et à Rennes. En PACA, vous avez moins chaud aussi, mais cette fois en raison du vent marin qui souffle assez fort, jusqu'à 60 km/h en rafale. L'ambiance n'en demeure pas moins très lourde, d'autant qu'il y a de l'humidité et des nuages bas près du littoral. Ça se calme à partir de demain.
Merci Valérie, vous restez avec nous et on se retrouve à 8h moins le quart pour Ça vous concerne. On verra comment les maires ruraux font avec cette sécheresse. Matinale spéciale depuis ce matin, 6h sur Europe 1. 8h moins 20, mais d'abord c'est la une du JDD avec son directeur de la rédaction. Bonjour Stéphane Albouy.
Bonjour Thierry.
Alors évidemment à la une du JDD ce matin, de la politique et des législatives, mais comme vous le savez, nous ne pouvons pas évoquer ces sujets à l'antenne jusqu'au résultat de ce soir.
Eh bien puisque nous ne pouvons pas parler de politique intérieure, partons à l'étranger avec notre enquête sur celui qui pourrait remplacer Donald Trump dans le cœur des conservateurs américains. L'ex-président rêve évidemment de prendre sa revanche sur Joe Biden et de reconquérir la Maison-Blanche. Mais un de ses anciens poulains, Ron DeSantis, pourrait bien lui griller la priorité. DeSantis est le gouverneur de la Floride et avait d'ailleurs été adoubé par Trump lui-même durant la campagne pour la conquête de cet État. Et depuis sa victoire, il s'est largement émancipé. Il s'est lui-même rebaptisé il y a quelques semaines le Top Governor en constatant le succès du deuxième volet de Top Gun. Ça donne un peu la couleur et la température du personnage qui n'hésite pas à épouser la plupart des positions complotistes sur la lutte contre le Covid. Vous verrez également dans notre dossier qu'il s'attaque en ce moment à l'Empire Disney, à qui il vient de supprimer des avantages fiscaux datant de 1967, en expliquant que ce groupe historique n'est plus le promoteur de valeurs familiales, mais un géant de la culture gauchiste, parce que ses personnages changeraient de couleur pour satisfaire à la dictature du politiquement correct. Bref, il a quelques atouts pour venir concurrencer son mentor dans la course à la présidence.
Alors Stéphane, plus près de nous, vous revenez également sur la situation dans nos hôpitaux à l'entrée de l'été. Hein.
Oui, et nous révélons les principales pistes du plan d'urgence qui devrait être mis en œuvre très prochainement. Pour faire face à la pénurie de soignants, des cabines de télémédecine devraient être installées dans certains services d'urgence pour les soins les moins graves. Plutôt que d'attendre durant des heures, les malades les plus légers seront orientés vers ces équipements qui permettent des consultations à distance. Un effort financier devrait également être consenti pour revaloriser le travail de nuit des personnels soignants. Et de la même manière, des dédommagements seront accordés aux médecins généralistes à qui il pourrait être demandé d'assurer des astreintes de week-end pour délester les urgences.
Et puis dans un tout autre univers, vous nous proposez une interview de la danseuse étoile Aurélie Dupont.
Absolument. Aurélie Dupont, ancienne danseuse star de l'Opéra de Paris et qui était jusqu'à cette semaine la directrice de la danse, nous explique en exclusivité pourquoi elle a décidé de démissionner. Elle revient sur son parcours, ses réussites, ses regrets et fait quelques mises au point sur sa réputation et sur l'ambiance qui peut régner dans cette grande institution. C'est un témoignage touchant et très instructif.
Merci beaucoup Stéphane Albu, directeur de la rédaction du JDD. On regarde les autres unes de vos quotidiens ce matin. Le Parisien aujourd'hui en France est également sur les enjeux de ce deuxième tour. Et puis, bien sûr, sur la canicule et les records de température. 43 degrés à Biarritz hier, le jour le plus chaud en une de Ouest-France où l'on voit les spectateurs du festival du Hellfest en Loire-Atlantique aspergés d'eau par les organisateurs. La chasse au gaspillage en une de Nice matin, on voit ce sol craquelé, totalement sec. La sécheresse qui nous impose de limiter notre consommation d'eau. Enfin, le sourire, le bonheur du jeune Léon Marchand hier. Il est en une de l'équipe. À 20 ans, au championnat du monde de natation de Budapest hier, il a remporté la médaille d'or sur le 400 mètres 4 nages. Marchand de bonheur, titre très joliment. L'équipe, dans un instant, Valérie Darmon, Roland Perret, ça vous concerne. Et on va voir comment les maires ruraux aident leurs agriculteurs. Matinale spéciale sécheresse, depuis 6h. On est à vos côtés, on parle de vous, à tout de suite sur Europe.
Réveillez-vous, informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne votre rendez-vous pratique du dimanche matin avec Valérie Darmon et Roland Perret. Bonjour à vous deux.
Bonjour à tous.
Alors, spécial sécheresse ce matin depuis 6h sur Europe 1 avec nos correspondants en région. Reportage auprès de nos agriculteurs, de nos producteurs. L'hydrologue Emma Aziza était avec nous tout à l'heure à 7h10. On continue bien sûr à évoquer des solutions avec vous Valérie. Et les particuliers comme les élus s'organisent pour prévenir les dégâts.
Et oui, ce qui arrive n'est d'ailleurs pas une surprise. Hein. C'est ce que décrivent tous les rapports depuis des années. Au 17 juin, 37 départements mettent en place des restrictions d'utilisation de l'eau, selon le site officiel ProPluvia, contre 22 il y a 13 jours. Les choses évoluent donc vite, inquiètent les producteurs, comme Bruno Grelier, agriculteur en Charente-Maritime, interrogé par Timothée Denebuis.
Sur les premières récoltes, je perds environ 25 à 30%. Les phénomènes exceptionnels, je trouve qu'ils sont de plus en plus fréquents. L'an dernier, on a eu une sécheresse de printemps aussi, pas aussi marquée que cette année, mais quand même. L'année d'avant, on a vu des pluies tout l'hiver où il y a des céréales qui avaient noyé. Et il faut pouvoir nous laisser arroser des cultures cet été. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas ce qu'on aura comme récolte. Quoi.
Ouais, justement, ça laisse bien sûr présager un été difficile, Valérie. Certaines mairies ont déjà pris le taureau par les cornes.
Eh oui, absolument. Hein. Dans la commune ardéchoise de Beaumont, par exemple, s'il ne pleut pas en juin, le village pourrait manquer d'eau potable d'ici la fin de l'été. Ça se traduit par pas d'eau au robinet, sauf sur certaines plages horaires. Pour anticiper ces coupures, la commune a creusé un bassin de 30 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, l'a rempli de sable, créant une nappe phréatique artificielle. C'est la première fois qu'une commune en France creuse un réservoir d'eau enterré plein de sable. C'est une technique utilisée par les Romains il y a plus de 2000 ans qui empêche le croupissement. Alors d'autres communes font aussi preuve d'initiative. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Ouais. Comme nous l'explique ce matin Cyril Sibert, c'est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes président des maires ruraux de la Vienne et maire de Chenevel. Qu'est-ce que vous mettez en place à l'heure qu'il est, monsieur le maire ?
Écoutez, on est obligé de faire comme tout à chacun, faire des économies d'eau parce qu'il y a une urgence qui est là. Nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté des fleurs qui sont plus gourmandes d'eau parce qu'on veut tous avoir des villages fleuris. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir arroser pour que les fleurs puissent être belles. Donc, on plante des essences de fleurs qui sont moins gourmandes d'eau, comme le Dipladenia. On a également mis en place, vous savez, des récupérateurs d'eau lorsque nous avons la chance d'avoir de la pluie. Pour garder, faire une petite réserve d'eau. Ouais. On arrose le matin vraiment à la fraîcheur. Voilà, c'est sur des petites gouttes.
Ouais. Hein, voilà. Cyril Sibert, l'été 2019, 88 départements avaient été soumis à des restrictions et certaines communes rurales approvisionnées par camion-citerne. Est-ce que c'est envisageable là également ?
Alors, c'est envisageable, bien sûr. Après, tout dépend des communes. Nous, par exemple, on est vraiment dans une zone rouge. Hein. Ce week-end a été interdit, et notamment toutes les activités extérieures, en forte canicule. L'arrosage des voitures, bien sûr, lavage des voitures, le remplissage des piscines est interdit. Mmh. Les agriculteurs, puisque les nappes phréatiques sont très très basses, leur quota a été réduit de 50%. Donc imaginez derrière ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils auront une récolte encore nettement inférieure aux années habituelles. Donc c'est vraiment très compliqué. On vit quelque chose. On dit tous que c'est l'urgence climatique, mais finalement, c'est plus que de l'urgence maintenant. Il faut qu'on trouve des solutions pour que cette eau-là, on puisse la préserver.
Et on en parlait avec Valérie, construire des bassins de rétention, c'est une piste dans votre département ?
C'est déjà des choses qui existent. Alors après, le problème, c'est qu'on est dans du dogme où il peut y avoir des réticences plutôt politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir du dogme et se dire, voilà, l'urgence climatique, elle est là. Ouais. La sécheresse, elle est là. C'est pas que des 20 mots. C'est malheureusement un cas précis.
Merci à vous, Cyril Cybert. Bon courage, surtout à vos agriculteurs, hein, président des maires ruraux de la Vienne. Valérie, on le disait à 7h10 avec mon invité Emma Aziza, il va falloir maintenant faire avec la nouvelle donne climatique. Hein.
Effectivement, c'est une obligation de renforcer la digitalisation des services, par exemple la détection des fuites avant et après les compteurs, les structures tarifaires saisonnières, préserver les zones humides, désimperméabiliser, et j'en passe évidemment.
Roland, rapidement, est-ce que les agriculteurs ont un recours juridique vers qui ils peuvent se tourner si besoin ?
Alors, il existe un dispositif qui s'appelle le dispositif calamité agricole. Ouais. Et justement, ce dispositif est pour les orages, les fortes chaleurs. Ouais. Aujourd'hui, les agriculteurs sont vent debout justement pour mettre en place ce dispositif qui va leur permettre de devoir alléger leurs charges sociales, qui vont leur permettre également de ne pas payer de taxes foncières, d'obtenir également des aides et des indemnisations. Donc, c'est important que ce dispositif puisse être mis en place très vite.
Merci Valérie, merci Roland. Voilà pour ce dossier spécial sécheresse ce matin. Dans un instant, les questions pour vous, Roland. On va notamment parler d'un nouveau dispositif d'alerte de la population. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h51, l'Info Express, Victor Pourget.
À vos votes pour le deuxième tour des élections législatives. Ouverture des bureaux dans quelques minutes en métropole. C'était déjà le cas en Outre-mer et notamment en Guadeloupe, où la secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, a été battue. Elle devrait donc quitter son poste au gouvernement si l'on se fie à la règle énoncée par Emmanuel Macron avant l'élection. Fin de l'alerte rouge canicule pour les 14 départements concernés. 50 restent tout de même en vigilance orange. Conséquence, plusieurs incendies. 140 hectares de végétation ont brûlé hier dans l'Aveyron. 600 hectares dans le Var. Autre phénomène climatique extrême hier sur la côte normande. En début de soirée, de violentes rafales se sont faites sentir pendant 25 minutes. Et une issue dramatique à Villers-sur-Mer dans le Calvados. Un kitesurfer a perdu la vie. 3 autres personnes ont été légèrement blessé. Au Brésil, le journaliste britannique Dom Phillips et son guide Bruno Pereira ont bien été tués par balle. Annonce de la police locale après des analyses. Les deux hommes avaient été retrouvés morts après une excursion dans la forêt amazonienne pour un projet de livre. En sport, la natation française tient son nouveau champion du monde, Léon Marchand, seulement 20 ans. Il a remporté l'or sur l'épreuve du 400 mètres 4 nages aux mondiaux qui se tiennent à Budapest. En rugby, c'est Montpellier qui rejoint Castres en finale du top 14. Les Héroletais sont venus à bout des Bordelais 19-10 hier soir à Nice. Et bien sûr, on n'oublie pas la fête des pères. C'est bien
et
aujourd'hui.
Et votre papa vous a répondu, il était réveillé.
Il était réveillé, donc je vais vite lui souhaiter.
Et on le salue. Merci Victor, à tout à l'heure. Dans un instant, toutes les questions pour Roland. On va donc parler d'un tout nouveau système d'alerte de la population. A tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne la deuxième partie après le dossier sécheresse. Les questions pour vous, Roland, on y va ?
On y va.
Allez, on commence par un nouveau dispositif d'alerte des populations qui va être mis en place d'ici la fin du mois de juin. De quoi s'agit-il exactement, Roland ?
Alors, il a pour nom de code FR Alerte, France Alerte, on va dire. Il s'agit effectivement d'un tout nouveau dispositif d'alerte et d'information qui va être déployé en France dans moins de 2 semaines, Thierry, et qui a pour mission d'envoyer des notifications sur les portables des personnes qui se trouveraient dans une zone de danger.
Alors, quel type de danger ?
Alors, il peut s'agir de catastrophes naturelles, on en parlait tout à l'heure, comme des inondations. Il peut s'agir également d'accidents biologiques, chimiques ou industriels, tels que la contamination par exemple des réseaux d'eau ou de la chaîne alimentaire ou de transmission de bactéries. Et surtout, on pense à des actes terroristes. Cette notification d'alerte va informer les populations population sur le territoire en question touchée par le danger. Justement, quels sont les risques, leur localisation et surtout les comportements à adopter pour se protéger. Il pourrait également avoir ce qu'on appelle un lien pour accompagner le message, pour obtenir justement des infos supplémentaires d'un site internet officiel.
Et ça, c'est un dispositif seulement, uniquement en français ?
Non, on est même à la traîne sur la mise en place de ce système d'alerte qui a été pensé et préconisé par une directive européenne du 11 décembre 2018, donc ça date, et qui impose aux 27 États membres de l'Union européenne justement l'obligation de se doter de ce dispositif.
Alors concrètement, ça veut dire qu'on va recevoir un SMS sur nos portables ?
Alors non, pas un SMS justement Thierry, c'est une bonne question, parce que les messages d'alerte vont être diffusés sous forme d'ondes radio, ils vont nous faire concurrence les antennes de télécommunications. Ce ne sera pas des SMS car on ne veut pas saturer le réseau, comme pour chaque 31 décembre, vous m'envoyez un petit message à minuit pour me souhaiter la bonne année Thierry. La diffusion va s'appuyer sur le réseau 4G ou 5G bientôt, et donc sans smartphone, pas d'alerte possible, mais il est possible qu'ensuite le système fonctionne via des SMS géolocalisés.
Valérie ?
Mais Roland, pour être sûr de recevoir les notifications de danger éventuel, il faut s'inscrire préalablement ou télécharger une application spécifique ?
Non, les réseaux de télécommunications vont localiser tout seul les populations concernées par le danger en question. Il y aura une notification accompagnée d'un signal sonore spécifique et d'une vraie vibration, et ce même si vous avez mis votre portable en silencieux.
D'accord, merci Roland pour cette première information. On passe à la deuxième question du jour. Alors, qui porte sur les voyages en avion avec des sanctions plus strictes qui viennent d'être mises en place pour les passagers perturbateurs ? On y a tous été confrontés dans notre vie de touriste, mais pourquoi une aggravation des sanctions et quelles sont-elles ces sanctions ?
Alors oui Thierry, ces perturbations sont en augmentation constante. Les vols de l'Union européenne sont en péril par le comportement de certains passagers. Et face à ce constat de l'Agence européenne de sécurité aérienne, un nouveau régime de sanctions administratives et pénales a été mis en place. C'est une ordonnance du 1er juin, donc ça date de peu de jours, qui a renforcé le dispositif juridique qui est en vigueur jusqu'à cette date.
Et alors quelles sont les nouvelles sanctions ?
L'amende passe à 10 000 euros maximum, de quoi dissuader les perturbateurs lors d'un vol. Et elle pourrait être doublée si le perturbateur récidive. Et surtout, il écopera d'une interdiction de vol d'une durée maximale de 2 ans, portée à 4 ans en cas de récidive également. Mais également, ces peines pourront s'alourdir encore, pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc on ne plaisante pas. Et 75 000 euros d'amende pour avoir compromis la sécurité d'un avion en vol, en détériorant par exemple ou en dégradant volontairement un des éléments de l'avion ou du matériel de sécurité à bord.
Valérie ?
Et ces sanctions, elles concernent que les vols européens ?
Oui, car chaque compagnie hors Europe et pays d'appartenance ont leur législation applicable. Les dispositions prises concernent donc les vols européens pratiqués, attention, par les compagnies françaises. Mais chaque pays de l'Union européenne va appliquer les mêmes sanctions.
Juste qu'on comprenne bien, les comportements perturbateurs, c'est quoi précisément ?
C'est par exemple le fait d'utiliser son téléphone, son ordinateur, son iPad, alors que c'est un appareil électrique ou électronique qui peut être formellement interdit pendant le vol. Ça va être évidemment fumer, on nous le rappelle, fumer à bord, et puis entraver le dispositif de façon générale de sécurité à bord de l'avion et ne pas se conformer aux instructions de sécurité données par le personnel navigant.
Merci beaucoup Roland, merci Valérie. Matinale spéciale sécheresse depuis ce matin et ce vœu en musique bien sûr qui s'impose, rien que de l'eau. Véronique Sanson. Bon dimanche.
Bon dimanche.
Rappelle-toi comme elle est belle.
Voilà, petit clin d'œil Véronique Sanson, 1992, rien que de l'eau pour terminer cette matinale spéciale sécheresse auprès de nos agriculteurs avec nos correspondants en région depuis 6 heures. À suivre Isabelle Moreau, à tout de suite.